Il est 6h57 sur Europe 1, très bon réveil, très bon lundi. C'est le 7-9 d'Europe 1 qui démarre avec Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Krebs et son équipe qui vous réveillent tous les jours de 5h à 7h. Mais simplement, avant de vous souhaiter une bonne journée, Sébastien, ce très bel invité inattendu ce matin. Donc, la première prise de parole d'Edouard Philippe. Edouard Philippe lui-même, depuis qu'il a quitté Matignon. Tiens, c'était à 6h20 ce matin.
Bonjour, c'est Edouard Philippe.
Edouard Philippe dans la matinale d'Europe 1, invité inattendu pour nous parler sérieusement de son engagement, de ses souvenirs aussi de service militaire.
Quand on commence à être officier, on est aspirant et ensuite on est sous-lieutenant. Et il vaut mieux pas penser qu'on maîtrise totalement les opérations, donc il vaut mieux écouter avec beaucoup de concentration ce que disent les vieux sous-officiers qui connaissent mieux votre job que vous. Mais en même temps, c'est la première expérience du commandement et c'est vachement précieux.
L'ancien Premier ministre à votre micro ce matin, Sébastien Krebs.
Il nous a cité les chants militaires aussi, mais
oui,
il n'a pas voulu chanter.
Oui, il n'a pas voulu chanter, j'ai écouté ça attentivement. On va en entendre quelques extraits, puis l'armée française lance une campagne de recrutement de 16 000 jeunes. On va en parler à 7h30 ce matin, lundi 14 septembre 2020. Écoutez le monde changer avec Europe 1, le monde au rythme du Covid d'abord. Le Covid, son impact sur les échanges internationaux et ce sommet entre la Chine et l'Union Européenne ce matin. On va beaucoup en parler à 7h40. Un avocat d'affaires dont la mission est de faciliter l'installation des entreprises françaises en Chine. Ce matin, dans ce monde qui change, nous sommes à Lesbos, 5 jours après l'incendie. Nouveau camp de réfugiés qui s'installe tout près. Le Brexit, l'éclairage international de Vincent Hervouet à 7h15. Nous sommes en direct de l'Oregon également, l'état du Nord-Ouest américain en proie aux flammes. 500 000 d'évacués. 6h59, très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Hey, salut Mathieu, bonjour à tous, bonjour à tous. Quelle calor mes amis, quelle calor. Il fait très très chaud et déjà, 29 degrés, rendez-vous compte à Biarritz, il en fait 23 à Toulouse et nous en avons 17-18 dans la capitale. Dans l'après-midi, 36 à 38 degrés, villes les plus chaudes ou régions les plus chaudes, le Poitou-Charentes, le Morvan, la Gironde, les Landes, le Pays Basque, là il fera un cagnard, pas possible mes amis. 20 Paris et Lyon, 35, 34 à Toulouse, 33 à Besançon, 32 à Lille, 31 à Marseille et Strasbourg et 29 à Dunkerque, dans un ciel qui restera limpide pour nous tous, avec ce soir les quelques nuages qui vont se promener vers le Finistère, le Pays Basque, les Landes et la Gironde, mais vraiment c'est peu de choses, ce sera la journée la plus ensoleillée de la semaine et toute la semaine il fera chaud même si les nuages ne seront pas absents.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Bonjour matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h, bon réveil.
Pour moi, c'est impressionnant cette performance de nous contre une équipe comme Marseille. C'était exceptionnel.
A-t-on vraiment vu le même match? Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, salue la performance de ses joueurs et pourtant ils ont perdu 1-0 contre Marseille. 3 ont été expulsés. Des files d'attente sans fin devant les labos d'analyse pour les tests PCR, attente encore pour les résultats. C'est notamment à cause du manque de produits réactifs, comme on vous l'expliquera dans un instant. Un sommet virtuel aujourd'hui entre l'Union européenne et la Chine. L'Union veut notamment une concurrence équitable pour ses entreprises qui travaillent en Chine. Dans ce journal, nous retrouverons aussi l'envoyé spécial d'Europe 1 sur l'île de Lesbos, où de nombreux migrants refusent de s'installer sur le nouveau camp, installé à la hâte pour remplacer celui qui a brûlé.
Moi et ma famille, je préfère mourir à l'extérieur. C'est un centre fermé, fermé comme en prison. Nous ne sommes pas des criminels. Si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sortie.
Et puis les jeux vidéo, ça peut aussi être bon pour la scolarité de nos enfants. Le célèbre Minecraft existe aussi en version éducative. Et depuis le confinement, il a encore plus de succès dans les classes où ce sont les profs qui l'utilisent.
Juste après ce journal, l'OPEP a 60 ans. Nicolas Barré nous dira que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'a jamais eu aussi peu d'influence. L'éclairage éco à 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet, un classique PSGOM tout en tension qui a rappelé de mauvais souvenir à Virginie Fulpin, l'édito sport à 7h20 avant notre rendez-vous d'histoire, Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe Matin, il est 7h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et oui, un classico sous très haute tension hier soir au Parc des Princes devant quelques 3800 spectateurs. Le PSG s'est incliné face à Marseille.
1-0, but de Florian Thauvin. Cela faisait 9 ans que l'OM n'avait pas battu Paris. Mais un match marqué par les cartons distribués à l'appel.
14 jaunes et même 5 rouges en toute fin de match pour une bagarre. 3 Parisiens exclus, dont Neymar qui accuse le Marseillais Gomez d'insultes racistes. En tout cas, Julien Froment, même de l'avis de ses supporters, le PSG a complètement raté sa soirée.
C'est pas beau, c'est pas un match de foot.
Ce supporter parisien a de quoi être dépité. Absent dans le jeu, incapable de garder ses nerfs avec 3 cartons rouges, le Paris Saint-Germain a perdu pour la première fois à domicile contre son rival marseillais sous l'air qatari. Une première qui passe mal.
Cassé, ils ont pas fait 3 passes, on les a pas vus. C'est pas mérité, après ils chambrent, ils ont rien prouvé, ils ont rien montré.
Bah dégoûté, ouais. Ils viennent ici, ils finissent la série, ça fait mal. Hein.
Pour d'autres, la soirée a été plus douce. C'est le cas de ce supporter marseillais infiltré au parc.
C'est immense. C'est une fierté, je n'ai pas crié au toit, mais voilà, franchement c'était unique. Il y a toujours l'étoile qui brille.
Des Parisiens anéantis, des Marseillais tout en joie et un coach du PSG, Thomas Tuchel, dans le déni complet.
Pour moi c'est impressionnant cette performance de nous contre une équipe comme Marseille. Contrôler le match dans toutes les minutes, c'était exceptionnel. Mais maintenant c'est le défi de séparer cette performance et les résultats.
Deux défaites lors des 2 premiers matchs, 34 ans que ce n'était plus arrivé au PSG, 18e ce matin de Ligue 1 et qui après avoir tutoyé les sommets européens est désormais plongé dans une improbable crise.
Et oui, le PSG 18e. Et pendant ce temps-là, du côté de Marseille, explosion de joie hier soir au pied du Vélodrome sur le Vieux-Port avec fumigène et concert de klaxon.
Prendre son mal en patience. Pas d'autre solution si vous voulez vous faire tester. Dans toute la France, il faut affronter les files d'attente devant les labos.
Et ensuite, n'être pas trop pressé pour recevoir les résultats. Ils peuvent prendre jusqu'à 14 jours. Voilà l'une des explications que nous donne Marion Gauthier ce matin. Les réactifs, ces substances chimiques qui permettent d'analyser les prélèvements, commencent à manquer.
À la recherche d'un laboratoire pour demander un test PCR.
Nous, en fait, il faut compter au moins 6 jours. Il y a trop de demandes, donc du coup, ça bouchonne. Hein.
Environ 20% de tests en plus. Chaque semaine, les commandes de réactifs ont du mal à suivre, note François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes.
À chaque fois qu'on est arrivé à rendre dans des délais raisonnables, à chaque fois, on monte la barre. Donc il y a un moment donné, c'est vrai que ça coince. Une entreprise industrielle, elle ne s'adapte pas avec 3 fois plus de commandes. On l'a bien vu pour la production de masques en France, le temps que ça a demandé.
Les délais de livraison de réactifs s'allongent eux aussi car les fournisseurs sont sollicités par tous les pays du monde. Résultat, en France, des tests sont jetés sans avoir pu être traités dans les temps. Les patients ne sont pas isolés et la contamination progresse, souligne le docteur Bertrand Legrand, généraliste à Tourcoing.
Si on veut pouvoir prévenir les personnes contaminées par la personne que l'on teste, il faut bien que le résultat soit rendu avant que ces personnes n'aient contaminé tout le monde. Sinon ça sert à rien, à part à compter les malades.
Trop de tests inutiles, des réactifs gâchés, fulmine Bertrand Legrand. Beaucoup de médecins généralistes demandent que les tests soient effectués uniquement sur prescription.
Marion Gauthier. Les préfets de Marseille, Bordeaux et Guadeloupe remettent aujourd'hui leur proposition à Jean Castex pour éviter la propagation du Covid. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, réclame la fermeture des plages et des parcs à 20h ainsi que l'interdiction des fêtes de mariage.
Dans les établissements scolaires, on accorde un soin particulier à la désinfection des locaux. Depuis la rentrée, le département du Loir-et-Cher teste un aérosol connecté.
Clean Air Whiz, c'est son nom, est une innovation française qui cartonne. Créée par des tourangeaux pendant le confinement, ce produit est utilisé dans 26 collèges pour désinfecter les salles de cours chaque semaine. Jean-Gabriel Bourgeois a assisté à une démonstration à Bracieux.
Une simple pression sur l'aérosol posé sur une table au milieu de la pièce et c'est automatique. Le désinfectant est pulvérisé dans tous les recoins de la salle de classe avec un plus, un QR code sur le flacon. Christophe Joly est le co-inventeur de Clean Air Whiz.
Une personne qui rentrera dans cette pièce pourra avec son appareil photo scanner le QR code pour obtenir le fameux certificat qui lui dira que la pièce a été nettoyée correctement.
Une désinfection hebdomadaire qui vient s'ajouter au nettoyage quotidien des classes. Cette innovation permet aussi de tranquilliser parents et élèves. Nicolas Perruchot préside le conseil départemental du Loir-et-Cher.
Notre rôle à nous, je crois, c'est d'essayer de mettre en place autour d'eux des dispositifs qui permettent de les rassurer complètement et d'éviter la propagation du virus au sein des classes de collège.
Mais il ne faut pas oublier l'humain, nuance le principal du collège, Sébastien Montanari.
Je pense que le fait d'être rassuré ne tient pas forcément à un QR code, mais il est souhaitable qu'on maintienne des liens construits d'abord sur la confiance plutôt qu'un rendu compte permanent dans chaque salle de chaque nettoyage.
Cet aérosol connecté est testé ici jusqu'à la Toussaint. Bracieux, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et puis c'est aujourd'hui le coup d'envoi des évaluations pour les élèves de CP, CE1, 6e et 2e, des tests en français et en maths. On va en parler dans le journal de 7h30.
7h07 sur Europe 1. La rencontre Europe-Chine devait être l'un des grands moments de la présidence allemande de l'Union européenne. Le rendez-vous était prévu à Leipzig entre les 27 et le président chinois. Mais Covid oblige, il s'est transformé en réunion virtuelle.
Oui, avec format réduit. Il s'agit notamment d'avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce, malgré les tensions de ces derniers mois. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les Européens veulent instaurer un vrai rapport de force avec la Chine.
Oui, et ils voient donc un encouragement dans ce deuxième sommet si proche du précédent. D'autant plus que c'est Xi Jinping, l'homme qui décide à Pékin, qui y participe, et pas son premier ministre. Les Européens martèlent qu'ils ne veulent plus être naïfs par rapport à la Chine. Au sommet de juin, ils avaient d'ailleurs critiqué la situation à Hong Kong et évoqué les cyberattaques chinoises. Cette fois, ils visent des concessions sur le fond des dossiers. Ce matin, les deux parties signeront un accord sur la reconnaissance des indications géographiques. Le Roquefort, le Beaujolais ou le vinaigre balsamique ne pourront plus être copiés en Chine. Ça veut dire que Pékin a accepté le modèle européen dans ce domaine, se réjouit un diplomate. Mais le gros morceau reste la négociation de l'accord sur les investissements. Il doit permettre aux entreprises européennes de travailler dans des conditions de concurrence moins déloyales en Chine. Ça reste très dur, ça va prendre encore beaucoup de temps, reconnaît un proche du dossier. Enfin, c'est important, Bruxelles espère aussi convaincre Pékin d'accepter une rencontre en face à face sur les droits de l'homme d'ici la fin de l'année.
Isabelle Horry à Bruxelles. 5 jours après les incendies qui ont ravagé le camp de réfugiés de Lesbos en Grèce, 12 000 personnes, 4 000 enfants se retrouvent à dormir dehors, souvent sans manger, sans soins médicaux.
Le gouvernement grec, qui a déjà demandé l'aide de l'Union européenne, a installé un camp provisoire pour les accueillir, mais c'est une solution qui ne satisfait personne, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1, Hélène Terzian.
Une ancienne base militaire au bord de la mer, entourée de barbelés. Ici, pas de cabane de fortune, mais des centaines de tentes blanches alignées et des soldats qui veillent au grain. Les réfugiés ne se bousculent pas pour s'y installer. C'est même hors de question pour le Congolais Dadi.
Moi et ma famille, je préfère mourir à l'extérieur. C'est un centre fermé, fermé comme en prison. Nous ne sommes pas des criminels. Si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sortie.
Pour les milliers de réfugiés toujours entassés sur la route, la promesse de vivre dans des conditions plus dignes ne les fera pas changer d'avis. L'Afghane Samira implore qu'on la laisse quitter cette île.
Ce sera pareil qu'avant. Je ne suis pas venue ici pour rester en Grèce. Je veux aller en Allemagne. J'ai de la famille là-bas. Je veux juste ma liberté. Être libre, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir.
Depuis le port de plaisance voisin, les habitants scrutent impuissants le déplacement des réfugiés vers ce nouveau camp qui ne changera rien. Regrette Anna.
Ce n'est pas la solution. Construire un camp, ça n'a pas marché. Les réfugiés veulent partir, trouver un travail, une maison. Et nous, nous voulons être en sécurité, retrouver notre vie d'avant. C'est dangereux des deux côtés.
Les migrants ont brûlé l'ancien camp, affirme-t-elle. Ils feront sans doute pareil dans le nouveau. Sur l'île de Lesbos, Hélène Terzian, Europe 1.
En général, école et jeux vidéo ne font pas vraiment bon ménage. Et pourtant, depuis la rentrée, certains enfants utilisent Minecraft pendant la classe.
Oui, Minecraft, c'est 120 millions de joueurs dans le monde, l'un des jeux vidéo les plus populaires qui permet de tout construire grâce à des cubes. Il en existe maintenant une version éducative qui a encore plus de succès depuis le confinement. Clément Le Saffre.
Minecraft, c'est un jeu bac à sable, autrement dit un jeu où l'on peut tout faire et surtout tout construire. La version éducative exploite ses possibilités infinies pour illustrer le programme scolaire. David Plumel est professeur de techno dans la Nièvre. Il utilise Minecraft avec ses élèves de 5e pour une initiation à l'architecture.
En l'espace d'une heure de temps, les élèves sont capables de construire une maison. On n'en fera pas tous des architectes, mais au moins qu'ils aient une petite notion de ce que c'est qu'une maison, ce que c'est qu'une pièce, une surface, qu'est-ce que ça représente 10 mètres carrés, qu'est-ce que ça représente 100 mètres carrés. Donc ça permet déjà de se projeter plus facilement.
Et tout est envisageable dans Minecraft. Les ingénieurs de la NASA y ont ainsi reproduit la Station Spatiale Internationale. Et depuis le confinement, le nombre de connexions à Minecraft Education a augmenté de 50%. Deirdre Quarnstrom est responsable des contenus éducatifs.
La pandémie nous a appris que Minecraft s'adapte aussi bien à une classe qu'à l'école à la maison. Je pense que ce genre d'outils numériques, à la fois amusant et participatif, est très intéressant au vu des transformations actuelles de l'éducation.
Avec 2,6 millions de contenus téléchargés depuis mars, la France a connu un net regain d'intérêt pour Minecraft Education, même si l'on est encore loin de pays comme l'Australie ou la Suède, où Minecraft est inclus dans les programmes scolaires.
Et puis un mot de tennis, l'Autrichien Dominic Thiem remporte l'US Open, premier titre du Grand Chelem, victoire contre l'Allemand Zverev.
Merci beaucoup Hélène Zelani.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un sommet Chine-Europe en visioconférence aujourd'hui. Des enjeux économiques cruciaux alors que plus de 1700 entreprises européennes dénoncent des blocages, de nouveaux obstacles apparus avec l'épidémie. Est-ce que la Chine veut encore de nous ? Les règles du jeu commercial sont-elles équitables ? Mon invité ce matin est avocat d'affaires, Grégory Louvel, installé à Pékin depuis 15 ans. Il aide les entreprises étrangères françaises à s'installer en Chine, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Un anniversaire aujourd'hui, l'OPEP qui fête ses 60 ans. Jadis, le cartel du pétrole faisait trembler le monde entier. Aujourd'hui, il tremble à chaque tweet de Donald Trump.
Oui, alors vous n'étiez pas né, cher Mathieu, mais la dernière fois que les Occidentaux se sont rués sur des vélos avant le Covid, c'était en 1973. Les pays arabes de l'OPEP réunis au Koweït décident alors un embargo sur les exportations de pétrole vers les pays qui soutiennent Israël. Dans la guerre du Kippour, le pétrole manque, les prix du baril quadruplent de 3 à 12 dollars. C'est le premier choc pétrolier. L'OPEP, né quelques années plus tôt, en 1960 à Bagdad, prend alors conscience de sa puissance.
Une puissance économique et politique.
Oui, voilà. Pour les pays opposés à Washington comme l'Iran et le Venezuela, l'OPEP est un moyen de faire plier les États-Unis. Au sein du cartel, ce sont les deux pays qui résistent le plus aux pressions américaines pour faire baisser les prix. Mais au fil des années, leur influence a diminué, tandis que l'Arabie Saoudite s'est imposée comme la puissance dominante du cartel. Mais comme une puissance, on le sait, alliée aux États-Unis et qui a tendance à leur obéir. Un exemple parmi d'autres, le 22 juin 2018, Trump se fend d'un tweet demandant à l'OPEP d'augmenter sa production de pétrole pour faire baisser les cours. Quelques heures plus tard, l'OPEP décide d'augmenter sa production d'un million de barils par jour. Même scénario en avril cette année. Trump, cette fois, veut que l'OPEP réduise sa production parce que les cours se sont écroulés à zéro et que ça menace l'industrie américaine. Il menace Riyad de retirer les troupes américaines d'Arabie Saoudite. Ni une ni deux, l'OPEP s'exécute et réduit sa production.
L'OPEP, en fait, a perdu de son influence.
Oui, le pétrole ne compte plus autant que dans les années 70. À l'époque, il représentait 50% de l'énergie mondiale. Aujourd'hui, à peine un tiers. Le choc pétrolier de 73 aussi a donné le coup d'envoi au nucléaire. Le programme français est né comme ça. Et puis surtout, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont en train de dépasser les énergies fossiles. L'OPEP n'est pourtant pas mort. Il s'est allié depuis 2016 à 9 pays, dont la Russie. C'est ce qu'on appelle l'OPEP+. Mais le pays qui pèse le plus lourd sur le marché du pétrole, ça n'est ni la Russie, ni l'Arabie Saoudite, ce sont les États-Unis devenus premier producteur mondial. Du coup, ce levier politique dont disposait l'OPEP il y a un demi-siècle face à la première puissance mondiale, ce levier politique a disparu.
Merci Nicolas Barré, il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin du revirement des Britanniques qui remettent en cause l'accord sur le Brexit. Boris Johnson est critiqué de toutes parts, mais il fait le forcing au Parlement ?
Le Brexit est comme un divorce qui rejoue sans cesse la même scène de ménage. À Londres, la provocation, sur le continent, l'indignation, et puis à Bruxelles, le commissaire Barnier qui est toujours outré. Boris Johnson est-il un voyou ? Faut-il saquer Bojo comme on sanctionne les États voyous ? C'est ce que semblent croire les dirigeants européens qui ont renchéri tout le week-end. Un ministre irlandais l'a traité de menteur. Demain, il le traitera de voleur, notamment de saumon et de hareng. La bataille de poissonniers n'en finit pas. Un ministre français a avoué avec candeur que l'attitude britannique était inconcevable, ce qui prouve qu'il manque d'imagination ou de culture historique. Le président du Conseil européen somme le Royaume de prendre ses responsabilités et la Chambre des communes va discuter tout à l'heure, en deuxième lecture, le projet de loi qui fait scandale. Le texte prévoit qu'en cas de désaccord avec les Européens, Londres décide souverainement quelle aide publique et quels contrôles douaniers seront appliqués aux marchandises transitant entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.
C'est un gros coup de canif dans le contrat de divorce.
C'est le viol du traité, ni plus ni moins. Londres le reconnaît avec désinvolture. Or, l'accord signé et si longuement négocié ne peut être ni modifié, ni amendé, ni interprété. C'est écrit noir sur blanc, il ne peut même pas être clarifié. Et pour cause, il est ambigu parce que la question irlandaise est insoluble. Il y a deux pays en Irlande, mais une seule nation, et il ne faut pas remettre de frontières entre Belfast et Dublin, sous peine de rallumer la guerre civile. L'Irlande du Nord doit donc rester dans l'union douanière avec Londres, et en même temps, elle doit être alignée sur les normes européennes du marché intérieur. Sur le papier, le compromis paraissait habile.
C'est to be et not to be à la fois.
Les responsables britanniques en déduisent qu'ils peuvent exporter vers l'Union européenne leurs produits alimentaires puisqu'ils continueront à les livrer aux Nord-Irlandais. Les négociateurs européens leur ont répondu « faut voir, au cas par cas, rien d'automatique ». Voilà l'origine de la crise. Le paradoxe, c'est que l'Europe qui efface les frontières a été le grand facilitateur de la paix en Irlande et l'Irlande risque aujourd'hui de faire échouer l'Europe. Il est possible aussi que l'Irlande soit le prétexte choisi par Boris Johnson pour garder les mains libres et qu'il veuille seulement faire porter aux Européens la responsabilité du no deal. Dans 100 jours, le dénouement. Le 31 décembre, quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Et après les 100 jours, il n'y a pas forcément Waterloo et le triomphe des Anglais.
Merci Vincent Hervouet, il est 7h19. Avant 7h30, votre rendez-vous d'histoire, c'est avec Stéphane Bern. Ce sera juste après l'édito sport de Virginie Fulpin. Retour sur le choc PSG-OM hier soir. Première défaite des Parisiens face à leur rival de toujours depuis 2011. Un but, 14 cartons jaunes, 5 rouges. Une rencontre qui ravive de vieux souvenirs. Pas toujours bon. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
L'OM a battu le PSG 1-0 hier soir au Parc des Princes. La première victoire des Marseillais face aux Parisiens depuis près de 9 ans. Pour vous, on a beaucoup rajeuni hier soir, surtout pour le pire.
Bah, si ça ressemble à ça, rajeunir, je vais plutôt garder ma crème anti-ride, moi. Hein, parce que là, en fait, de jeunesse, bah, on a surtout vu de l'immaturité et l'irresponsabilité. Une cour de récré. Les Marseillais sont venus avec un plan, pas vraiment un plan de jeu. Hein. Leur but, c'était de faire sortir les Parisiens de leur gond avec Neymar en cible privilégiée. Oh, ça a bien marché. Hein. Le Brésilien est tombé dans le panneau comme un bleu. Dès qu'il y a de la tension, en fait, c'est le premier à dégoupiller. Il n'avait sans doute pas les jambes pour briller après son arrêt forcé pour Covid, donc il a plutôt utilisé sa bouche pour répondre aux provocations. Enfin, de temps en temps, il a aussi laissé traîner ses crampons ou essayé de jouer les sauveurs tout seul en oubliant les copains. Alors, si jamais il a vraiment disjoncté après des insultes racistes d'Alvaro, on n'a pas encore de confirmation, là, on sera tombé bien bas avec une journée où on aura eu homophobie et sexisme sur des banderoles parisiennes et racisme sur le terrain. On fait un concours du foot le plus bête du monde, c'est ça ? Ça a changé hein, les jeux de cours de récré. En plus, normalement, y a toujours un prof pour venir calmer les esprits. Mais là, l'arbitre était complètement dépassé. Ça, il a distribué des cartons à l'appel, hein, souvent mérités, parfois pas. Un pénalty aurait pu être sifflé pour le PSG, mais non. Et un but aurait dû être accordé à l'OM, mais non. Autant dire que c'est pas comme ça qu'il va se faire respecter. On n'a pas vraiment vu de foot hier, mais une sale bataille.
En rajeunissant ainsi de 10 ans, on a quand même replongé dans une vraie opposition entre le PSG et l'OM.
Ça pourrait être une bonne nouvelle. Hein. Ça fait 10 ans qu'on connaît le résultat du classique avant même qu'il ne soit joué. Là, au moins, on retrouve du suspense. J'essaie de me convaincre, mais en fait, j'y arrive pas. Hein, parce que pour l'OM, en gros, c'était l'année ou jamais avec en face un PSG diminué. Il valait mieux en profiter. Les Marseillais ont réussi à le faire, tant mieux pour eux. Mais le problème, c'est que si l'OM a gagné, c'est pas parce qu'il a été bon, c'est parce que le PSG a fait n'importe quoi. Que les Parisiens n'arrivent pas à jouer leur football en ce moment, soit qu'ils jouent au chiffonnier de bas étage sur le terrain 3 semaines après leur finale de Ligue des Champions, c'est triste. Alors si, pour retrouver une opposition digne de ce nom, on est obligé de voir le PSG redevenir un petit club de Ligue 1 aux idées courtes, je suis pas sûr de vouloir rajeunir, non. C'est ça le spectacle qu'on veut offrir aux plus jeunes, ceux qui ont une vraie cour de récré.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins aux alentours de 7h20. À 7h25, à présent, nous accueillons Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un barbu. Oh, il ne sera pas question de Moïse, de Victor Hugo ou même de Conchita Wurst, mais de Karl Marx. Il y a 153 ans, jour pour jour, était publiée la première version du Capital. Alors parlons donc économie, parlons argent, pépette, thune, flouze, oseille, mais surtout pourquoi dit-on payer en argent liquide quand on règle en pièces métalliques ou en billets de papier? Le savez-vous?
Non.
Eh bien, non. J'aime bien vous
si piéger. Je vous dis oui maintenant, coupe court à la chronique.
L'explication est toute simple, Mathieu. Elle nous vient d'Italie. Nous sommes alors au 15e siècle et pour désigner des biens libres de dette, des biens disponibles, transférables dans l'immédiat et donc pouvant s'écouler facilement, on disait « liquido ». À cette époque, cela concernait surtout des terres et des maisons. Puis, par extension en France, le mot « liquide » s'est appliqué aux espèces qui pouvaient faire l'objet de transactions aussi rapides qu'efficaces, sans intermédiaire ni vérification.
En France, on dit « payer en liquide ». Et dans les pays anglo-saxons ?
We pay cash. En Espagne, c'est un peu comme en français, d'ailleurs. Pagar con dinero contante y sonante. Sonnant et trébuchant. Le trébuchet, vous savez, c'est ce qui permettait de vérifier le poids du métal. Comprenez donc en monnaie sonnante et trébuchante. En Roumanie, on paye en argent glacé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Voilà, Mathieu. Dans une future chronique, nous parlerons de l'expression « payer en monnaie de singe ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve immodestement que ma rubrique vaut son pesant de cacahuètes.
C'est très joliment dit. Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Vôtre. Quel est le programme du jour ?
Eh bien, on réunit des as du cash-cash aujourd'hui. Cash, ça ne s'écrit pas de la même façon. Hein. L'égyptienne Néfertiti, tellement bien cachée qu'on ne sait toujours pas où est sa momie. Le peintre Michel-Ange, qui s'est caché dans une cave pour fuir les Médicis. Et Carlos Ghosn, l'homme qui a voyagé dans une malle, comme disent les enfants. Bref, trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui seront ensemble cet après-midi, et avec Mathieu Noël, évidemment, qui lui ne se cachera pas. C'est de 16h à 18h sur Europe 1.
A tout à l'heure, 16h Stéphane, il est 7h27. Europe 1. 7h30, la météo avec Laurent Cabrol.
Allez, mais où se passent les nuages? Où se sont-ils cachés? Où sont-ils? Eh bien, ils sont loin de nous. La Méditerranée est claire comme le ciel français, le ciel de la France. Et puis l'Atlantique aussi est très clair. Bref, il n'y a aucun nuage sur la France. Le temps est dégagé. Il fera très chaud aujourd'hui. 27 à Quimper et 38 dans les Landes, en passant par 31 à Marseille, 32 à Lille, 33 à Nice, à Nancy, 35 à Paris et Lyon, 36 à Bordeaux, 37 à Avallon, 38 à Dax. Bref, ce sont des températures extrêmement élevées. On battra peut-être pas beaucoup de records, mais enfin, elles sont bel et bien supérieures à la moyenne nationale, avec un petit voile en fin de journée près de l'Atlantique, mais je vous en reparlerai tout à l'heure.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h31.
Les enfants ont sans doute beaucoup travaillé sur des ardoises et le retour donc au travail à l'écrit sur des lignes de cahier est quand même difficile.
Oui, difficile de s'y remettre après ces longs mois loin de l'école. Les élèves de CP, CE1, 6e et 2e s'apprêtent à passer leur évaluation aujourd'hui. Les résultats seront scrutés à la loupe. Il n'y aura pas de reconfinement local à Marseille, le président de la région PACA l'a assuré, mais les règles sanitaires vont être durcies pour les Marseillais aujourd'hui. Une campagne plus adaptée et mieux ciblée, l'armée de terre part en quête de ces nouvelles recrues. Et peut-être l'un des romans les plus prometteurs de cette rentrée littéraire, Nicolas Caro vous raconte l'anomalie d'Hervé Le Tellier à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, la Chine empêche-t-elle nos entreprises de se développer chez elle? L'Europe ne veut plus se laisser faire. Sommet Chine-Europe en visioconférence. Aujourd'hui, un avocat d'affaires français installé à Pékin dans le tête-à-tête Europe Matin. Faible mobilisation des Gilets jaunes ce week-end, c'est la fin du mouvement, nous dira Nicolas Bétou à 7h50. Avant de retrouver Nicolas Cantelou qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk, ce matin Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué au transport. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À peine rentré et c'est déjà l'heure de plancher pour les élèves de CP, CE1, 6e et 2e. Coup d'envoi des évaluations nationales aujourd'hui. Cela fait 3 ans que ce dispositif est mis en place, mais cette année, les résultats seront observés avec la plus grande attention. Il s'agit de mesurer le retard pris pendant le confinement.
Justement, 3 semaines seulement après leur retour en classe, les élèves sont-ils prêts pour ces évaluations? Virginie Riva a posé la question à des enseignants qui ne semblent pas trop inquiets.
Les élèves ne s'en sortent pas si mal, c'est en tout cas ce que disent les profs lorsque vous leur demandez d'évaluer au doigt mouillé leur niveau. Jean-François Clerc enseigne les maths en collège, il est étonné de ses 6e.
On a fait un test comme on fait à chaque début de séance, où je leur demande 5 fois 6, 8 fois 9, et ils mettent la réponse sur une ardoise. Et cette année, mes élèves ont plutôt bien réussi, contrairement à l'année dernière, où j'avais quand même un bon quart de ma classe qui ramait pour me donner correctement les bonnes réponses.
Ce professeur y voit l'influence positive des parents, familiers de l'exercice des tables de multiplication. D'autres élèves s'en sortent plutôt mieux, sans doute là parce qu'ils se sont aussi libérés du regard de la classe. Mais au primaire, sur les fondamentaux comme l'écriture, Nathalie trouve que ça pêche pour ses CE1.
Les enfants, quand ils ont travaillé pendant le confinement, ont sans doute beaucoup travaillé sur des ardoises ou sur des tableaux. Et le retour donc au travail à l'écrit sur des lignes de cahier est quand même difficile.
Nathalie qui évoque également des problèmes d'oubli de ce qui a été vu en CP. Exemple avec la notion de dizaine que ces élèves de CE1 ne maîtrisent plus du tout. Les professeurs risquent de devoir revenir un peu en arrière avant les vacances de la Toussaint.
Plus de 7000 nouveaux cas recensés en France au cours des dernières 24 heures. Et une situation qui se tend de plus en plus en Gironde, en Guadeloupe et dans les Bouches-du-Rhône.
La préfecture a travaillé tout le week-end pour élaborer les nouvelles mesures sanitaires à appliquer. C'était une demande du Premier ministre Jean Castex. Pour l'instant, rien n'a fuité du côté de la préfecture qui fera part de ses annonces aujourd'hui. À Marseille, les habitants, eux, ne sont pas très rassurés. Stéphane Frangy.
Vite, profitez des plages avant que tombent les sanctions. Voilà qui résume bien le sentiment d'urgence de nombreux Marseillais.
On profite et la fin de l'été et de se dire à quelle sauce on va être mangé, donc on profite. On se dit demain, on ne sait pas si on pourra encore aller à la plage comme ça ou s'il faudra aussi porter le masque à la plage.
Certains craignent un reconfinement, mais des élus se sont positionnés contre. C'est le cas de Renaud Muselier qui demande l'interdiction des fêtes de mariage et il souhaite fermer également l'accès au parc et aux plages dès 20h. La présidente de la métropole, Martine Vassal, aimerait renforcer la répression du non-respect des gestes barrières. Et dans cette lutte contre le coronavirus, d'autres propositions émanent de la société civile, comme Sofiane Benhabib, PDG des laboratoires Synlab Provence, qui souhaite multiplier l'offre de tests, notamment pour les quartiers défavorisés.
La création de centres de dépistage de grande envergure, comme ce qu'on a pu voir dans certains endroits du monde, positionnés dans des endroits stratégiques pour répondre à la demande actuelle. L'objectif, c'est d'accueillir sur chaque centre entre 500 et 1000 personnes par jour.
Et ce biologiste, s'il est entendu, pense pouvoir déployer ses centres éphémères d'ici ce week-end. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
7h35 sur Europe 1. 80 clips vidéo pour tenter de séduire les jeunes. L'armée de terre lance sa toute dernière campagne de recrutement.
Objectif, 16 000 nouvelles recrues par an pour compenser les départs à la retraite et les démissions. Et cette fois, Aude-le-Roi, un effort stratégique a été fait pour coller aux habitudes des jeunes Français.
Terminé, les belles images léchées façon Hollywood de soldats en action, que ce soit en entraînement ou en opération extérieure. Cette fois-ci, les images sont tournées en lumière naturelle. Elles mettent l'accent sur les détails de la vie du soldat, du combattant. D'ailleurs, les clips ont été tournés au sein des régiments, lors d'une séance collective de sport, par exemple, ou d'un entraînement. Les clips sont très courts, entre 6 et 10 secondes, ultra personnalisés, ultra ciblés. Ils apparaîtront sur les réseaux sociaux, consultés par les jeunes en fonction de leur navigation sur Internet. Par exemple, telle jeune femme aimant le sport verra arriver un clip sur les activités physiques au sein de l'armée de terre. L'objectif, c'est le réalisme, l'immersion, pour éviter le décalage parfois violent ressenti par les nouvelles recrues entre ce qui leur a été présenté dans les vidéos et la réalité du terrain. Aujourd'hui, 30% d'entre elles quittent l'armée de terre dans les 6 premiers mois.
Et cette année, il pourrait manquer près de 2000 recrutements sur les 16 000 prévus à cause du confinement et des exigences sanitaires imposées par le coronavirus.
Ne manquez pas, dans le journal de 8h, l'invité inattendu d'Europe 1 ce matin, c'était à 6h20, un homme qui nous raconte son expérience avec l'armée, son service militaire. C'est sa première prise de parole depuis qu'il a quitté Matignon. Édouard Philippe, vous l'entendrez à 8h. Et puis nous sommes en pleine rentrée littéraire. On attend la première sélection du prix Goncourt, mercredi. La semaine dernière, c'était celle du Renaudot qui était dévoilée.
Et parmi les œuvres sélectionnées, L'Anomalie, signé Hervé Le Tellier chez Gallimard. Nicolas Carreau l'a consulté pour vous.
Mars 2021, le vol Air France AF06 Paris-New York croise la route d'un gigantesque cumulonimbus. Les turbulences sont terribles, les passagers commencent à envisager le pire, mais miracle, l'avion sort du nuage et se pose en Amérique. Tout le monde est indemne, ça fera une anecdote à raconter. 3 mois plus tard, la tour de contrôle de New York repère un avion, c'est le vol AF06 Paris-New York, même équipage et même passager qu'il y a 3 mois. La coïncidence est un peu énorme, alors on escorte l'avion, on débarque tout le monde et l'on constate l'impensable, l'avion a été dupliqué. Et les passagers aussi. Ils se retrouvent tous avec un double sur cette planète. Que fait-on face à cette situation, Hervé Le Tellier?
Comment est-ce qu'on négocie avec cette personne le fait d'avoir une seule vie et d'en avoir deux en même temps? Donc on aime quelqu'un, mais malheureusement, on est deux à l'aimer et elle nous aime tous les deux. Donc comment est-ce qu'on négocie l'intégralité des situations auxquelles on est confronté?
Alors bien sûr, les 8 personnages que l'on suit vivent tous des expériences différentes. Une mère célibataire se demande comment partager la garde de son enfant avec son double, par exemple. On suit aussi un couple, un chanteur pop, un tueur à gages même. Les questions posées par le roman sont vertigineuses et la lecture jubilatoire.
L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, c'est déjà une réussite hein, puisque les droits de traduction du roman ont déjà été cédés dans 6 pays, dont les États-Unis. Et on parle même d'une adaptation en série télévisée.
Merci beaucoup, Sophie Echen. Il est 7h38 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports, la circulation des Français et la circulation du virus. La grève annoncée jeudi à la SNCF également, Jean-Baptiste Djebbari, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Mais dans un instant, la guerre commerciale entre Pékin et Washington et ses conséquences pour nous Européens. Conséquences également de la crise du Covid. Sommet Chine-Europe en téléconférence aujourd'hui. Ce matin sur Europe 1, Grégory Louvel, avocat d'affaires installé à Pékin. Depuis 15 ans, il aide des entreprises européennes à pénétrer le marché chinois. Le tête-à-tête à suivre. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9.
7h40, un rendez-vous Bruxelles-Pékin aujourd'hui pour un sommet en visioconférence. Les Européens veulent instaurer un rapport de force avec Pékin. Les cartes du commerce international sont rebattues. Mon invité vit et travaille en Chine depuis 15 ans. Grégory Louvel, avocat d'affaires.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Grégory Louvel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous vos auditeurs.
Et merci d'être en direct avec nous depuis Pékin ce matin. La Chambre de commerce européenne en Chine dénonce les nouveaux obstacles apparus après l'épidémie. Elle se demande ouvertement, enfin elle, ce sont 1700 entreprises européennes qui se demandent ouvertement si les Européens sont encore les bienvenus. D'abord, très simplement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Chinois mettent réellement des bâtons dans les roues des industries françaises, européennes installées en Chine?
Je pense qu'il est très difficile de faire du commerce hors de ses frontières, quel que soit le pays. Et il s'avère que faire du commerce en Chine, à cause de la différence culturelle et de la différence de modèle politique notamment, est encore plus difficile. Et effectivement, depuis quelques années, les entreprises étrangères en Chine, américaines, européennes et françaises, se plaignent tous les ans dans leur rapport annuel des difficultés pour faire du commerce en Chine, souvent à raison.
Mais là, concrètement, ces nouveaux obstacles dont parle cette Chambre de commerce européenne en Chine, de quoi s'agit-il? Quels sont justement les freins au développement d'entreprises occidentales à Pékin?
On a l'histoire des 20 dernières années de la Chine et de la croissance en Chine a été par vagues. Aujourd'hui, le développement économique de la Chine emmène la Chine à rivaliser avec les États-Unis dans bien des domaines très avancés en matière de recherche et technologie. Et aujourd'hui, les nouveaux marchés à conquérir sur la Chine sont des marchés, par exemple, qui ont trait aux data, à la technologie, l'intelligence artificielle, la voix sur Internet, etc. Et ça peut être très technique. Et la réglementation chinoise en matière de cybersécurité et de données personnelles fait que l'accès des entreprises étrangères au traitement des data de citoyens chinois en Chine est quasiment impossible, ou en tout cas extrêmement périlleux pour une entreprise étrangère.
Alors il y a le Covid qui rebat les cartes.
Avec des conséquences au niveau juridique.
Je disais, il y a le Covid qui rebat les cartes. Il y a le contexte, c'était déjà celui de la guerre commerciale voulue par Donald Trump. Ce bras de fer, normalement, il devrait renforcer notre position, nous, Européens.
C'est très intéressant, effectivement. On pourrait penser que on a une carte à jouer parce que les Chinois vont se détourner des États-Unis. Mais en fait, la problématique est beaucoup plus complexe que ça. Dans la mesure où... de facto, la Chine nous demande de choisir entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est-à-dire, vous êtes une entreprise française, vous êtes soumis, parce que le droit américain est extraterritorial, donc il s'applique en dehors de ses frontières à bien des égards, à certaines réglementations américaines directement. Donc, les Américains ont en place des listes, par exemple, pour interdire certaines entreprises qu'elles considèrent comme soutenant le terrorisme ou soutenant les camps d'internement dans le Xinjiang, pour parler de l'actualité la plus récente. Vous travaillez en Chine, vous avez un partenaire en Chine depuis des années. Ce partenaire se retrouve sur une liste noire américaine. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas changer de partenaire. Vous savez que vous allez être sanctionné par les Américains si vous ne faites rien.
Et ça
emmène les entreprises européennes présentes en Chine à choisir entre la Chine et les États-Unis.
Et dans ce cas-là, elles choisissent les États-Unis? C'est ce que vous dites?
C'est la tendance.
Vous avez des
Je
départs.
Peux pas parler pour tout le monde.
Non, mais bien sûr, Grégory Louvel. Mais alors, très simplement, on va poser la question autrement. Est-ce que vous constatez des départs d'entrepreneurs, voire même d'expats installés à Pékin à cause de ces obstacles?
Pas encore. On n'y est pas. Mais je sais que les directions régionales se posent souvent la question et en off, elles nous disent on envisage éventuellement de quitter la Chine si les tensions continuent à se renforcer dans les mois qui viennent.
Alors je disais, les règles du commerce international, les cartes ont été rebattues. Est-ce que la Chine, aujourd'hui, est toujours dans une logique de conquête, d'expansion, de domination économique du monde?
Alors, une logique de conquête, probablement. Une logique de domination, je ne pense pas que la Chine voit le monde à travers cet angle-là. Ils ont une problématique plutôt de consolidation du marché intérieur et de solidification des frontières du pays. Bon, après, on peut toujours débattre des frontières Taïwan, pas Taïwan, etc. C'est plutôt que la Chine soit au centre du monde, plutôt que de vouloir dominer le reste du monde.
Alors, il y a ce sommet. Alors, ça se déroulera à Leipzig, en Allemagne. Angela Merkel préside l'Union européenne. Elle sera présente pour ce sommet en visioconférence. Les Chinois ne sont pas là. Emmanuel Macron lui-même ne sera pas là. Il sera représenté. Cette téléconférence, est-ce que ça fait perdre de l'importance à ce sommet ou c'est tout simplement le monde qui change et finalement les dirigeants télétravaillent aussi?
Je pense que c'est très difficile pour les Européens d'avoir un dialogue constructif et franc avec les Chinois. Finalement, l'Europe, c'est pas très important pour les Chinois d'un point de vue géostratégique, parce qu'il y a 27 pays qui font, et ils peuvent faire tourner les pays les uns contre les autres successivement. Donc c'est surtout une occasion ratée pour les Européens d'aborder les sujets frontalement avec leur contrepartie chinoise.
Une occasion ratée pour les Européens. Alors je comprends ce que vous dites, la Chine joue les 27 un par un plutôt que Bruxelles. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que la relation France-Chine est en train de changer ?
Je pense qu'on a atteint un tournant ces derniers mois, dans la mesure où pendant des années, on ne faisait pas grand-chose de très, je ne vais pas dire constructif, ce n'est pas le mot, mais plutôt de très agressif. On essayait de pas de plaire, mais on essayait en tout cas d'arrondir les angles. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le présenter. Et ces derniers mois, avec le Covid, on sent qu'il y a eu un changement de la politique dans certains pays européens, pas tous malheureusement, vers plus de répondants. Et ça, c'est un signe des temps. Et je pense que si les Américains n'avaient pas osé ouvrir leur voie et ouvrir donc la boîte de Pandore sur ce sujet, les Européens n'auraient pas osé le faire non plus.
Oui, c'est ce que nous disions. Ils nous ont renforcés encore, faut-il voir ce qu'il en sera. Mais le sentiment peut-être d'une Europe renforcée, illustré par le fait qu'on a moins peur de parler droits de l'homme, par exemple, aux Chinois, des Ouïghours, de la situation à Hong Kong.
Effectivement, ça fait partie du package, mais aussi au point de vue économique, on ose dire qu'on n'est pas content, alors qu'avant, on attendait juste qu'on nous donne des parts de marché.
Merci beaucoup, Grégory Louvel.
Merci, bonne journée, au revoir.
Invité du tête-à-tête Europe Matin ce matin, passionnant, en direct depuis Pékin, Grégory Louvel, avocat d'affaires installé à Pékin. Il aide des entreprises françaises à pénétrer le marché chinois. Nous voulions parler justement de ce contexte alors que se tient aujourd'hui ce sommet en visioconférence entre la Chine et l'Union européenne. 7h48.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Avant 8h, vous le savez désormais, on retrouve Nicolas Canteloup qui coach l'invité politique de la matinale. Ce matin, Jean-Baptiste Djebbari à 8h15, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique chargée des Transports. Mais tout de suite, que reste-t-il du mouvement des Gilets jaunes ? Après la faible mobilisation du week-end qui vient de se terminer, l'édito politique de Nicolas Bétou, c'est tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'était ce week-end, le grand retour annoncé des Gilets jaunes, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
En effet, ou pour dire les choses plus clairement, plus crûment, ce retour a été un véritable flop. Entre 6 et 8 000 manifestants, dont un tiers à Paris, quelques débordements, quelques interpellations, et puis basta. Ce mouvement ne représente plus rien, ne défend plus rien, il ne réclame plus rien, ne reconnaît plus rien. Difficile de faire plus raté.
Vous dites qu'il ne représente plus rien, ce mouvement des Gilets jaunes. Il reste tout de même une colère, non ?
Si, bien sûr. Ou plutôt, il reste des colères. Il y en a autant qu'il y a de manifestants. Des colères toutes différentes. Il y avait, par exemple, dans certains défilés, samedi, des patrons de discothèques qui protestaient contre la persistance de la fermeture de leurs établissements à cause de l'épidémie de Covid, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les premiers Gilets jaunes, avec ceux qui occupaient les ronds-points il y a 2 ans, dont la colère avait été déclenchée par la taxe carbone et par le sentiment de mépris de l'élite envers eux, envers leur vie? Évidemment rien, aucun rapport, aucune lutte commune, juste une colère des uns et une colère des autres.
Bon, mais est-ce que le Covid n'a pas joué contre la mobilisation ?
Si, bien sûr, là aussi, l'ambiance du moment n'est pas au grand rassemblement, au cortège de manifestants bien serrés les uns contre les autres, mais ça aurait pu tout aussi bien, au contraire, servir de catalyseur. Je pense par exemple au port obligatoire du masque, qui a beaucoup animé les groupes Facebook depuis quelques semaines. On a pu croire à un moment que les Gilets jaunes allaient se transformer en mouvement des masques bleus, un peu comme on l'a vu en Allemagne, où il s'est produit des mobilisations impressionnante, mais non, non, vérité au-delà du Rhin n'est pas vérité en deçà.
Et les leaders alors des Gilets jaunes ?
Ah ben là encore un naufrage. Il y a ceux qui ont été cassés par leurs propres camarades parce qu'ils avaient cru un moment pouvoir les représenter et sortir du lot. Cela flingué. Il y a ceux qui se sont autodétruits, qui se sont perdus dans leurs propres excès. Je pense par exemple à Jérôme Rodriguez, cet homme qui avait acquis une forme de stature, qui avait souffert et perdu un œil à cause d'un tir de LBD. Eh bien, il se noie maintenant en traitant les policiers de nazis. Quant à ceux qui ont essayé de récupérer le mouvement, raté là aussi.
Oui, là c'est le cas pour Jean-Marie Bigard qui a dû être exfiltré d'un cortège de manifestants.
Et oui, comme quoi éructer des insanités et ponctuer ses discours de mots obscènes, ça ne suffit pas pour faire un destin politique. Quant aux autres, les vrais politiques, ceux-là, je pense à Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui avait tenté une manœuvre de rapprochement peu après la naissance du mouvement, eh bien il semble bien s'être tous découragés. Ils étaient au début irrécupérables, ces Gilets jaunes, parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés. Ils sont irrécupérables aujourd'hui parce qu'il n'y a plus rien à récupérer.
Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion, votre édito, Nicolas, tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Et ce nouveau rendez-vous dans Europe Matin cette année, tous les jours avant 8h, Nicolas Canteloup va coacher, conseiller à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports. Et je reçois Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, européen, qui veut qu'on aille plus vite et plus fort en termes d'écologie.
Mais Monsieur Béliard, bien sûr qu'il faut aller plus vite. Ça fait des années qu'on dit les choses, nous les écologistes. Ce matin, j'entendais sur votre antenne Monsieur Cabrol qui annonce qu'il fera 38 degrés à Paris. 38 degrés à Paris, 39 à Dijon, 44 à Montélimar. Et ça ne choque plus personne, Monsieur Béliard. C'est ça qui est grave. On les connaît, les conséquences du réchauffement. Monsieur Messi, à la rédaction, tout le monde le sait, Monsieur Cabrol s'hydrate avec n'importe quoi. Vous, Monsieur Béliard, on le voit à l'antenne, vous mettez des chemises à carreaux, Nicolas Carreau met des chemises à fleurs, ça devient n'importe quoi. C'est grave, ce réchauffement. Il faut le dire à nos concitoyens.
Yannick Jadot, vous vouliez aussi mettre en garde Jean-Baptiste Djebbari ?
Oui, Jean-Baptiste, mon petit JB, on se tutoie parce qu'on est des écolos, on est une grande famille. Tu as vu, Jean-Baptiste, cette affaire de retraité de Théoul dont la maison a été squattée pendant plus de 48 heures, ce qui a rendu les squatteurs totalement inexpulsables. Eh bien, méfie-toi, si tu pars en déplacement plus de 48 heures, je suis certain que Ségolène Royal va tenter de venir squatter le ministère de l'écologie et elle sera inexpulsable, la Ségolène. C'est une réalité.
Je vous fais passer le message. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille tous les matins à sa manière l'invité politique de la matinale. Le ministre en charge des transports au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, Jean-Baptiste Djebbari. Merci Nicolas et à tout à l'heure à 8h45 pour la revue de presse. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo. Il va faire chaud, Laurent.
Hein ? Ah oui.
Oh oui.
Il va faire très chaud, mon cher Mathieu. Très, très chaud pour tous nos amis, quelle que soit la ville où vous habitez. Amis auditeurs, vous avez du 27 à 38 degrés. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. 27 à Quimper, qui est la ville la moins chaude. Et nous passons à 30 à Nice. Alors, à Nice, pas très, très élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons des vents de mer. Et les vents marins seront là sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Donc, 30 à Nice, 30 à Narbonne, 31 à Marseille. Tout cela pour les mêmes raisons. Et puis, 30-31 à Strasbourg, Lille, Épinal, Nancy, Caen, 32-33, 34 à Sedan et Toulouse, 35 à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand, 36 à Bordeaux, Blois et à Nevers, Rochefort et Avallon, 37 et 38 dans les Landes. Vous voyez des températures extrêmement élevées avec un voile d'altitude, je le disais tout à l'heure, qui va se profiler dans le courant de l'après-midi. Oh, pas grand-chose sur le littoral atlantique. C'est vraiment simplement un petit parasol comme ça qui va venir au-dessus de votre tête et vous serez content de l'avoir. Dans le sud, ce sont les vents du même nom, les vents sud, notamment sur le Pays Basque. Et puis ce soir, le Finistère, le Pays Basque et les Landes et la Gironde seront sous un ciel légèrement voilé. Mais enfin, c'est la plus belle journée de la semaine et toute la semaine il fera chaud, mais toute la semaine le ciel ne sera pas aussi limpide.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h, soyez les bienvenus.
De toute façon, il faut voir main de monde, ça c'est sûr. Quand vous êtes 5 autour d'une table, dire les 5 personnes que vous avez vues à telle date, c'est beaucoup plus facile que de faire un calendrier de la semaine où vous avez vu plus d'une cinquantaine de personnes.
Tracer les cas contacts, remonter les chaînes jusqu'au patient zéro, indispensable pour lutter contre l'épidémie. Insuffisant, aujourd'hui, l'assurance maladie doit recevoir du renfort. Ahmed Merabet, victime des terroristes du 7 janvier, il était musulman, il s'est fait abattre par des faux musulmans, témoignait il y a 5 ans son frère, qui doit prendre la parole au procès. Dans ce journal, méga incendie aux États-Unis et une odeur de brûlé qui saisit même les passagers des avions avant l'atterrissage. L'armée française qui recrute, témoignage d'un ancien bidas nommé Édouard Philippe. Et puis presque aussi vif qu'une explication PSGOM, l'éternel débat sur l'immobilier, louer ou acheter son logement et au bout de combien de temps est-ce rentable? Réponse ville par ville, c'est en exclusivité sur Europe 1.
Juste après ce journal, l'invité politique d'Europe Matin, 8h15, Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Après 8h30, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini à 8h40 et la revue de presse de Nicolas Canteloup. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Va-t-on vers un nouveau tour de vis dans les régions où le virus circule le plus activement? Les préfets de Gironde, des Bouches-du-Rhône et de Guadeloupe doivent faire des propositions au gouvernement. Mais au-delà du respect des gestes barrières, au-delà des files d'attente devant les centres de test, l'un des points faibles du moment, c'est le traçage des cas contacts.
Il s'agit d'aller plus vite pour prévenir ceux qui ont côtoyé un malade sans le savoir. 2000 personnes supplémentaires vont être recrutées par l'assurance maladie. Victor Dolande.
Depuis cet été, les brassages de populations se sont largement multipliées, les mesures barrières considérablement relâchées. L'assurance maladie croule sous le travail et n'est plus en mesure de remonter efficacement toutes les chaînes de contamination pour une raison simple, on voit beaucoup trop de monde, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
De toute façon, il faut voir main de monde, ça c'est sûr. Ça facilitera le remontage des chaînes de transmission. Quand vous êtes 5 autour d'une table, dire les 5 personnes que vous avez vues à telle date, c'est beaucoup plus facile que de faire un calendrier de la semaine où vous avez vu plus d'une cinquantaine de personnes.
Jusqu'à présent, les brigades de l'assurance maladie avaient pour objectif d'appeler 40 000 cas contacts par jour. Avec les renforts annoncés, les équipes pourraient dépasser la barre des 60 000 appels quotidiens. Autre gros problème dans le traçage, les médecins généralistes, totalement débordés ces dernières semaines, n'ont même plus le temps de renseigner à l'assurance maladie la fiche sur le patient zéro. Sans information sur ce malade, impossible de remonter les chaînes de contamination. Ce sont donc désormais les brigades de l'assurance maladie qui vont soulager les généralistes dans cette tâche.
Lui en a fini avec sa période d'isolement de 7 jours. Le Premier ministre Jean Castex sera ce matin en Seine-et-Marne pour continuer à vanter le plan de relance.
L'exécutif qui aimerait reprendre une action normale communiquée sur les réformes, mais il est sans cesse rattrapé par le sanitaire, Adrien Beck.
Vivre avec le virus est une chose, gouverner avec en est une autre. En ce moment, on n'arrive pas à rester plus de 24 heures sur un même sujet, déplore un ministre. Situation sanitaire oblige, les Français n'ont pas encore intégré l'existence du plan de relance. On se rend bien compte que ça ne prend pas, constate un conseiller. Piqûre de rappel aujourd'hui, avec un nouveau déplacement de Jean Castex ce matin. Sur le même thème, Emmanuel Macron recevra ce soir des acteurs de l'économie numérique. On ne veut pas donner l'impression que la France est en mode pause, dit un membre du gouvernement. Sauf qu'en cette rentrée, le pays semble encore en partie à l'arrêt. Chiffre révélateur, la consommation d'électricité dans l'industrie est inférieure de 7% à la normale depuis début septembre, selon une source haut placée du secteur de l'énergie. La preuve, constate un conseiller, que le temps est un peu suspendu et l'exécutif comme malade du Covid.
Et à propos du Covid à l'étranger, un nouveau confinement strict de 3 semaines est décrété en Israël, avec l'option d'étendre cette mesure alors que beaucoup de familles doivent se rassembler à partir de vendredi pour les fêtes juives de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.
3e semaine du procès des attentats de janvier 2015, avec aujourd'hui les témoignages des policiers du 11e arrondissement de Paris, ceux qui s'étaient fait tirer dessus par les frères Kouachi juste après la tuerie de Charlie Hebdo.
On attend aussi les proches d'Ahmed Merabet, ce policier de 40 ans, les terroristes l'avaient abattu dans leur fuite, comme le rappelle Guillaume Biet.
La vidéo a fait le tour du monde. Filmée par un riverain, Ahmed Merabet sur le trottoir, exécuté à bout portant par Chérif Kouachi. Diffusées sur Internet, les images sont reprises à la télévision dès la mi-journée. C'est comme cela que Morgane Khalifaoui, la compagne du policier, l'a appris.
Il se trouve que j'étais dans un restaurant et qu'il y avait la télévision. C'est passé en boucle. Je ne pouvais pas le reconnaître. J'ai juste vu des images, un homme à terre. J'ai essayé de le joindre, message, j'ai essayé de l'appeler. Je suis rentrée au travail et sa sœur m'a appelée.
Une veuve anéantie qui s'exprimait 3 jours plus tard face aux médias. À ses côtés, les proches du policier, dont le frère Abdelmalek, insistait pour lutter contre tout amalgame religieux.
L'islam, c'est vraiment une religion de paix et de partage et d'amour. On n'a rien à voir avec ça. Mon frère était musulman, il s'est fait abattre par des faux musulmans, par 2 terroristes.
Depuis, Ahmed Merabet a été élevé au grade de lieutenant et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Une plaque honore sa mémoire, boulevard Richard Lenoir. 5 ans et demi plus tard, sa famille affronte une nouvelle épreuve, témoigner devant les assises et faire face aux accusés.
8h05 sur Europe 1. On en vient à cette étude qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité avec Le Parisien. Faut-il acheter ou louer son logement?
Et la question, si vous permettez, c'est surtout au bout de combien de temps c'est rentable de devenir propriétaire? Les experts du site meilleurtaux.com ont planché sur 36 villes françaises en comparant les 2 options pour un appartement de 70 mètres carrés. Alors la réponse, Olivier Samin.
Si ça fait plus de 3 années et 5 mois que vous louez votre appartement, vous auriez mieux fait de l'acheter dès le départ, car à partir de maintenant, vous perdez de l'argent. Ça, c'est la conclusion que Meilleur Taux tire de la moyenne des 36 plus grandes villes françaises en 2020. Mais cette moyenne cache des réalités très contrastées. Dans 27 villes, la durée à partir de laquelle l'achat est plus rentable que la location est plus courte. À Perpignan, par exemple, il suffit de 11 mois. 13 mois à Nîmes, Orléans, Clermont-Ferrand, Metz, Caen et Tours. 14 mois au Havre. Et à l'autre bout du classement, il y a ces villes où l'immobilier flambe et où la durée est nettement plus longue. À Nantes, Boulogne-Billancourt et Montreuil, il faut 8 ans, voire plus. À Bordeaux, 12 ans et 6 mois. 13 ans à Paris et, record absolu, 18 ans à Lyon. Toutes ces durées ont explosé cette année par rapport à l'année dernière. Conséquence de l'augmentation des prix de l'immobilier, conjuguée à la remontée légère, certes, mais quand même, des taux d'emprunt.
La mort d'un héritier du gaullisme et homme d'action comme le salue Emmanuel Macron. Bernard Debré a été emporté ce week-end par un cancer. Connu pour quelques coups de gueule de sa voix rocailleuse, il avait été au gouvernement d'Édouard Balladur, maire d'Amboise, député de Paris. Il était aussi professeur de médecine, urologue à Cochin. Bernard Debré, fils de Michel, rédacteur de la Constitution, frère de Jean-Louis, ancien président de l'Assemblée nationale.
À suivre sur Europe 1. Il avait fait son service militaire bien avant de devenir Premier ministre, bien sûr. La première prise de parole d'Édouard Philippe depuis son départ de Matignon, c'était ce matin sur Europe 1. On va en entendre un extrait.
Et puis nous serons aux États-Unis dans l'Oregon, épicentre des gigantesques incendies qui tamisent la lumière du jour sur des centaines de kilomètres carrés.
A tout de suite, il est 8h07.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
On en est à 27 morts en une semaine. Les États-Unis face à la folie des incendies géants qui ont dévoré des centaines de milliers d'hectares. C'est sur la côte ouest. Donald Trump est attendu en Californie aujourd'hui.
Nous retrouvons tout de suite Xavier Yvon, notre envoyé spécial Europe 1 à Salem, dans l'Oregon. On se rend compte, Xavier, de cette situation hors norme avant même d'être arrivé.
Oui, on commence à sentir l'odeur de brûlé dans l'avion. Pendant la descente à travers un épais brouillard jaune, c'est assez sidérant. Le pilote avait prévenu, ne vous inquiétez pas pour l'odeur, ce n'est pas l'appareil qui a un problème, c'est la fumée dehors. Et au sol, c'est encore pire. Tout est enveloppé dans cette brume de fin des temps, avec donc cette odeur entêtante de brûlé. J'ai fait des dizaines de kilomètres en voiture et partout, c'est pareil. Parfois, on n'y voit pas à 200 mètres. Les immeubles, les panneaux routiers, les arbres apparaissent comme des fantômes dans ce brouillard toxique qui prend à la gorge. La qualité de l'air ici est en ce moment la plus mauvaise de toute la planète. Et c'est une épreuve supplémentaire pour les évacuer, comme Yann, posé dans une tente sur un parking avec ses 2 enfants. On ne peut pas s'en débarrasser, dit-il fataliste, ça rentre même dans les caravanes et les bâtiments. Dans la tente voisine, Nancy, elle, a une autre source d'inquiétude. Son fils de 38 ans n'a pas donné de nouvelles depuis les évacuations.
S'il ne le trouve pas à un endroit, il doit bien être quelque part. Je ne peux être sûre de rien, j'ai juste mon espoir. Donc je suis sûre qu'il va bien. Je peux le sentir dans mon cœur, une mère sans ces choses-là.
Comme le fils de Nancy, des dizaines de personnes manquent à l'appel en Oregon et les autorités locales ont déjà prévenu. Le nombre de victimes de ces incendies historiques pourrait fortement augmenter.
Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Salem dans l'Oregon.
Le navire turc qui menait une prospection dans un espace maritime revendiqué par la Grèce est rentré au port. Un geste alors que la vente de 18 avions Rafale à l'armée grecque a été annoncée samedi soir.
12 de ces avions seront d'occasion, 6 seront neufs. C'est la première vente du fleuron de Dassault Aviation à un autre pays européen que la France. Et à propos de l'armée de terre française veut recruter 16 000 jeunes. Grande campagne, 80 spots différents seront envoyés de manière ciblée.
Et à cette occasion, justement, c'était l'événement ce matin. Sur Europe 1, la première prise de parole d'Édouard Philippe depuis son départ de Matignon au sujet du service militaire. Il y allait avec des pieds de plomb et ça lui a beaucoup plu.
il manque probablement une période de mélange, enfin plus qu'il n'existe aujourd'hui, de creuser, de mélange et d'engagement, et puis de participation à quelque chose qui vous dépasse et qui est important pour la collectivité. Alors je ne crois pas qu'il faille refaire le service militaire, mais c'est vrai que toutes les réflexions et les expérimentations sur ce qu'on a appelé le service national universel sont probablement une façon en tout cas d'essayer de créer quelque chose qui approche la logique du service national sans le côté militaire qui, il faut le reconnaître, n'est plus indispensable pour la protection de la nation, me semble-t-il.
À la fin de l'engagement, comme on dit, c'est la quille. Quand on quitte Matignon, c'est aussi la quille.
C'est une période de liberté physique et intellectuelle. Donc on peut dire que oui, c'est une forme de quille, peut-être, oui. Et que ça se fête aussi. Oui, après tout, disons ça.
Invité inattendu à 6h20 avec Sébastien Krebs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Vous retrouvez l'intégralité de l'interview sur europe1.fr.
Le sport, le foot d'abord, plus qu'un classico, ce fut un cartonico. 14 cartons jaunes, 5 rouges. On retient à peine la victoire pourtant historique de l'OM 1-0 hier soir au Parc des Princes. 9 ans que ça n'était pas arrivé. On retient plutôt les images de cette bagarre générale due à des insultes racistes qu'aurait reçues le joueur brésilien Neymar. Et puis en tennis, l'Autrichien de Dominic Thiem, numéro 3 mondial, remporte l'US Open. C'est son premier grand chelem et c'était cette nuit contre l'Allemand Alexander Zverev. Victoire en 5-7.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h13, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les transports durablement affaiblis par la crise sanitaire. Le train ralenti, l'aérien tangue au point de faire voler en éclats l'alliance Air France-KLM. Notre invité sur ce sujet et d'autres, le ministre en charge des transports, Jean-Baptiste Djebbari.
À tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique chargée des Transports.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous.
Ce jeudi, la CGT appelle à la mobilisation, notamment à la SNCF, appelle à la grève de la CGT cheminot. À quelles perturbations faut-il s'attendre ?
On aura les chiffres précis 48 heures à l'avance, puisque vous savez que les grévistes doivent, au titre du service minimum tel qu'il est appliqué en France, se déclarer 48 heures à l'avance, mais le mouvement tel que nous l'anticipons ne paraît pas être très suivi pour l'instant. Donc ce n'est évidemment pas un appel à la mobilisation, mais je pense que ce mouvement est assez illisible dans la séquence, parce que vous le savez, nous venons à nouveau d'investir massivement sur le ferroviaire, 5 milliards de soutien dans le plan de relance sur les 11 milliards des transports. Et puis nous sortons d'une séquence depuis 2017 où nous avons repris 35 milliards de dettes à la SNCF. Bref, où le mouvement de soutien et d'investissement pour le ferroviaire est massif. Donc je crois que ça illisibilise un peu, comme on dit, les motifs de la grève.
J'ai l'impression plutôt à vous entendre que vous jugez que cette grève est indécente eu égard au contexte sanitaire et économique. Vous ne la comprenez pas?
J'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai dit d'ailleurs en direct aux syndicalistes concernés, que je ne comprenais pas cette grève. Nous avons une divergence de point de vue. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de débattre à la Fête de l'Humanité avec Laurent Brun, le patron de la CGT cheminot, sur le fret ferroviaire.
Un débat constructif, alors, j'imagine.
Eh bien, sur le fret ferroviaire, assez, en définitive. Mais sur le reste, c'est vrai que nous restons très en désaccord sur l'analyse du contexte et en tout cas sur l'effort inédit que fait ce gouvernement depuis 2017 pour restaurer, en tout cas pour endiguer ce qui avait effectivement été la décroissance du mode ferroviaire par manque d'investissement. Nous faisons vraiment depuis 2017 tout le contraire.
On va parler des pertes de la SNCF, mais Jean-Baptiste Djebbari, pour ceux qui nous écoutent ce matin, ça veut dire que dès mercredi soir, hein, parce que la grève va débuter ce mercredi, les Français devraient avoir leurs trains régionaux et nationaux.
Mais pour l'instant, nous avons 100% du trafic, c'est important de le redire, et nous avons aujourd'hui 70% des passagers. Donc nous avons aussi un peu de marge au regard d'un mouvement qui pourrait être, comme je l'ai dit, de faible ampleur. Mais nous tiendrons évidemment les Français au courant, en région parisienne, en province, en région, de manière à ce qu'ils aient toute l'information utile. Mais je le redis, en l'état, le niveau de mobilisation attendu est plutôt de faible ampleur par rapport à ce qu'on a connu encore dans la période récente.
Alors, une grève qui s'ajoute à une situation compliquée pour la SNCF, qui n'en finit pas de perdre de l'argent malgré les milliards du plan de relance. Est-ce qu'il est temps que le groupe se décide à céder des filiales ?
D'abord, vous avez raison de rappeler que depuis 2018, la loi que nous avions votée, il y avait des pertes imprévues. 1 milliard pour la grève entre décembre et février. des aléas d'exploitation, notamment trouver du substitut au glyphosate, puisque vous savez que la SNCF était un grand consommateur de glyphosate, et puis le Covid pour plus de 4 milliards d'euros. Donc ce que nous avons fait, nous avons doté la SNCF d'un peu plus de 4 milliards d'euros, le ferroviaire de 5 milliards d'euros, de manière à ce qu'elle puisse procéder, la SNCF, à ses investissements.
Oui, et l'argent que met l'État... Elle est très loin de ses objectifs d'équilibre, je vais le rappeler, financier à l'horizon de 2024, très loin pour le moment.
Oui, mais l'argent que met l'État permet... aujourd'hui, de financer les investissements sans que la SNCF ait besoin de procéder à des cessions.
Est-ce que vous demandez plus, c'est la question.
A contrario, en revanche, que la SNCF, que le patron de la SNCF se pose la question stratégique de savoir quels investissements complémentaires, supplémentaires, il veut faire et qu'il gage ses investissements supplémentaires par des cessions, ça me paraît être une question.
Vous avez entendu ce qu'il vous a dit.
Stratégique.
C'est prématuré. Vous avez dit Monsieur Farandou.
Mais bien sûr, mais je discute quasiment tous les jours avec Monsieur Farandou, donc je sais bien ce qu'il pense. Et c'est la raison pour laquelle l'État, ça a encore été confirmé avant-hier en sa présence, c'est la raison pour laquelle l'État, au travers du plan de soutien, permet à la SNCF d'investir, et des investissements extrêmement importants qui vont régénérer le réseau, qui vont permettre à beaucoup plus de trains de passer, sans que la SNCF ait besoin tout de suite de recourir à des cessions. Que le patron de la SNCF, pour l'avenir, se pose la question des cessions, qu'ils veulent recentrer par exemple son groupe sur le ferroviaire et pas sur d'autres activités non stratégiques, c'est une question entrepreneuriale, stratégique, intéressante.
Alors dans le secteur et dans le domaine aérien, Jean-Baptiste Djebbari, la survie de l'alliance entre Air France et KLM n'est pas automatique. Déclaration choc quand même du ministre des Finances néerlandais. Que répond le ministre des Transports français ?
Je réponds que le groupe Air France-KLM... d'ores et déjà peut faire mieux. Vous savez que c'est un groupe qui ne mutualise pas un certain nombre d'activités, par exemple l'achat de la flotte, donc le groupe tel qu'il est pourrait faire mieux. Et puis je réponds que le groupe dans son ensemble est déjà en train d'ajuster substantiellement, parce qu'en fait la critique, ou en tout cas la remarque sous-jacente du ministre néerlandais, c'est le fait que dans un environnement très dégradé, ce qui est vrai, le groupe ne fait peut-être pas assez pour être compétitif. 1500 projets de suppression, 1500 suppressions d'emplois prévu chez KLM, un plan de départ de 6500 emplois chez Air France, 16% de l'effectif.
Une véritable hémorragie.
C'est un ajustement.
Sacré ajustement.
C'est un ajustement conséquent, substantiel.
Et qui va suffire, selon vous, à sauver l'alliance ?
Pour l'instant, proportionné au scénario que nous envisageons. Mais encore une fois, je pense que ni moi, ni le ministre néerlandais, ni personne ne sait vraiment dire à quoi ressemblera le trafic de début 2021. Ce que nous observons pour l'instant, pour l'été, c'est que nous avons eu 25% des passagers par rapport à l'été précédent. C'est pas beaucoup. Essentiellement des touristes, et on voit bien qu'on a du mal à voir revenir la clientèle d'affaires, essentiellement due aux restrictions de frontières, encore aujourd'hui, plus d'une centaine de pays est en zone rouge, mais c'est vrai que ça pose la question des modèles économiques des compagnies aériennes à moyen terme. L'effort qui a été fait pour ce gouvernement, il est double. C'était d'abord installer un environnement sanitaire de manière à ce que les passagers aient confiance.
Et on va en parler en amont.
Je pense que nous l'avons réussi, contrairement à ce qu'a pu dire Madame Le Pen.
Madame Le Pen dit que les aéroports français, je voudrais quand même insister sur ce point, sont des passoires à virus. Elle a tort.
Elle est approximative, ou elle est mal informée, ou elle est dans de la rhétorique politique politicienne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont en zone rouge. C'est-à-dire que vous ne pouvez venir que si vous avez un motif légitime. Il n'y a par exemple pas de tourisme entre la France ou en provenance de plus de 130 pays. Quand vous êtes dans un pays rouge écarlate, vous devez avoir fait un test, soit avant, soit à l'arrivée. Chaque jour à Roissy, il y a plus de 5000 tests. Chaque jour, 5000 tests qui sont réalisés par les équipes de la PHP. Donc soit Mme Le Pen est passée vraiment à côté de tous ces contrôles, soit je l'invite à aller visiter pour de bon les équipes de Roissy qui font un travail remarquable.
Alors, il y a le Rassemblement National et puis il y a Jean-Baptiste Djebbari, les écologistes, qui s'en prennent pêle-mêle au secteur aérien, mais aussi au Tour de France, au sapin de Noël, à la 5G, etc. De quoi est-ce que c'est révélateur, selon vous ?
D'abord, on savait qu'une partie des écologistes était technophobe et décroissant. Une partie, pas tous, mais en tout cas celles qui s'expriment, notamment les maires de Bordeaux, de Lyon. Et je crois qu'aujourd'hui, les masques tombent et on voit cette partie des écologistes qui sont un peu méprisants, je trouve, à l'égard d'événements populaires. Je rappelle que Tour de France, pour l'avoir suivi depuis tout petit, c'est aussi, d'abord c'est un événement très populaire qui a une vocation sociale, c'est aussi un événement qui permet, par exemple, pour ceux qui n'ont pas la capacité de voyager, de découvrir la France, de le découvrir comme ça par l'intermédiaire d'une très belle étape sportive, ou en tout cas événement sportif. Donc on les découvre un peu méprisants, et je crois profondément élitistes. C'est traduit cette frange des Verts qui aujourd'hui montrent leur vrai
visage. Vous dites franche et partie, je note que depuis tout à l'heure, Jean-Baptiste Djebbari, vous faites une différence entre des écologistes avec lesquels vous pourriez vous entendre et gouverner et les autres, c'est le cas ? Parce que vous avez évidemment une écologiste
mais d'abord,
au gouvernement.
Nous avons des écologistes, nous avons...
Il y en a qui sont fréquentables et puis il y a les autres ?
Non, pas du tout, il y en a qui partagent cette vision du progrès, qui n'ont pas la volonté de, comment dirais-je, appréhender la société dans une version un peu autoritaire qui consisterait à restreindre les libertés des uns et des autres pour pouvoir satisfaire un modèle qu'ils croient plus protecteur. Moi, je crois que la décroissance, que le fait d'aller vers moins de confort matériel, de considérer que les gens doivent avoir des quotas pour se déplacer, je crois que ce n'est pas un projet de société qui prône la liberté.
Est-ce de la décroissance ?
Donc, c'est extrêmement gênant.
À ce sujet, sur les 149 propositions de la Convention citoyenne, certaines concernent directement, vous le savez, le secteur aérien, avec
absolument
notamment la volonté, Jean-Baptiste Djebbari, de taxer tous les vols courts ou longs par une éco-contribution, bref, une taxe. Hein. Le ministre des Transports, que vous étiez favorable ?
Mais moi, d'abord, j'avais cru comprendre que l'ambition collective, c'était de favoriser les modes les plus vertueux sur le plan environnemental. Ce que nous faisons, 5 milliards pour le ferroviaire, 2 milliards pour...
Bah oui. Non mais c'est bien de le rappeler, mais la question est précise.
Que
une éco-contribution sur les vols courts ou longs, le ministre des Transports, qu'est-ce qu'il répond ?
Bien sûr, et donc je n'avais pas compris que la taxe de 4 milliards allait servir finalement à d'abord achever un secteur qui est déjà à terre et ensuite en faire un mode de transport pour les riches. Et c'est la conséquence que ça aurait, une taxe de 4 milliards, pour vous dire les choses très franchement. Donc moi je partage pleinement l'objectif de rendre l'aérien beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Nous investissons cette année, en tout cas sur les deux ans qui viennent, 2 milliards dans l'avion vert.
Pour ça avoir veut une... dire, oui, mais concrètement, ça veut dire non à cette éco-contribution. Je rappelle juste
mais
au passage...
ça veut dire que tout a des conséquences.
Ouais. L'aviation civile dit que ça aurait pour conséquence...
150 000 emplois, évidemment...
Et une chute du trafic aérien de l'ordre de
20%. Du réenclavement des territoires qui aujourd'hui survivent aussi par l'aérien. Pensez à Limoges, à Aurillac, à Brive, qui ont besoin de liaisons aériennes pour pouvoir évidemment se développer, rester attractives, attirer des entreprises. Et donc je pense que si je partage l'objectif d'avoir un transport aérien beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental, et si nous faisons les efforts nécessaires, notamment en matière de recherche, je pense que cette taxe, évidemment, aura des impacts tout à fait délétères.
Donc, c'est non. Elle ne sera pas mise en place.
Vous m'avez demandé mon point de vue en tant que ministre des Transports.
Vous faites partie du gouvernement,
donc
je suppose que vous avez travaillé sur...
Oui, oui. D'abord, je connais bien le secteur et mon travail à moi, c'est d'agir en complémentarité des modes. Je ne fais pas la campagne de l'aérien plus que du ferroviaire, plus que des routiers.
Oui, mais entre la demande des écologistes et les intérêts du secteur aérien, je vous demande qu'est-ce que vous choisissez ce matin.
Moi, mon travail, c'est d'objectiver les conséquences.
Et quand on dit objectiver les conséquences, je n'ai pas tout compris.
4 milliards égale 150 000 emplois en moins, égale effectivement des territoires qui se réenclavent. Donc je pense que sur le plan de l'aménagement du territoire, de la cohésion des territoires, c'est plutôt une mesure qui emporte des conséquences très négatives.
Et qui ne devrait pas être mise en place, si je vous entends ce matin.
Eh bien, nous discuterons avec les membres de la Convention.
Terminé.
Mais vous savez qu'il y aura un projet de loi début 2021 qui va reprendre l'ensemble des mesures de la Convention citoyenne. Il y aura un débat, mais c'est la démocratie. Vous voyez, j'exprime aujourd'hui, je crois, un avis un peu éclairé sur la question. Il y aura un débat démocratique. Et chacun pourra juger.
Le même débat qu'on a connu sur le nucléaire. Pour conclure, l'aéronautique comme le nucléaire, d'ailleurs c'est une filière d'excellence française, mais minée, selon vous, par la volonté de certains de se donner une conscience écologique ?
Non mais le nucléaire emporte des vrais problèmes. Le traitement des déchets, le fait qu'effectivement on ait des travaux qui sont absolument conséquents devant nous. Mais c'est vrai que le nucléaire d'abord, aujourd'hui, permet de fournir 72% de l'électricité. Et c'est tellement un avenir pour le nucléaire au travers d'un autre modèle. Mais il faudra résoudre d'abord ces deux sujets, la sécurité et le traitement des
déchets. Et soutenir quand même les filières d'excellence. Merci
absolument.
Jean-Baptiste Djebbari d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, l'info avec Hélène Zellani, le journal du Tour, la météo et notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zellani.
Retour aux affaires aujourd'hui pour Jean Castex, dont le deuxième test est négatif. Le Premier ministre est attendu en ce moment même à l'usine BIC à Montévrin, en Seine-et-Marne, avec les ministres de l'économie, Bruno Le Maire, et du travail, Elisabeth Borne. Il doit ensuite tenir un Conseil national de l'industrie consacré au plan de relance. Jean Castex qui attend dans la journée les recommandations des préfets de Marseille, Bordeaux et de la Guadeloupe pour tenter d'endiguer l'épidémie. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, réclame la fermeture des plages et des parc à 20h et l'interdiction des fêtes de mariage. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, appelle de son côté à ne pas toucher aux horaires de fermeture des restaurants et des bars fixés à 00h30. Des renforts de toute urgence, appel du maire de Sévrac d'Aveyron près de Rodez, qui évoque une situation catastrophique. 50 résidents de l'EHPAD sur 75 sont positifs au Covid, 6 sont décédés, 20 employés de l'établissement sont également atteints. En Israël, un reconfinement national de 3 semaines sera imposé à partir de vendredi pour le nouvel an juif. En Angleterre, à partir d'aujourd'hui, il est interdit de se réunir à plus de 6 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf dans les écoles, au travail, pour les mariages ou les funérailles. C'est le coup d'envoi des évaluations pour les élèves de CP, de CE1, de 6e et de seconde. Des tests en français et en maths pour se rendre compte des effets des semaines de confinement. L'hommage d'Emmanuel Macron à Bernard Debré, décédé à 75 ans, c'était un héritier du gaullisme qui n'hésitait jamais à sortir des cadres et à dire le vrai dès qu'il s'agissait de l'intérêt du pays. L'ancien ministre et député jumeau de Jean-Louis Debré était le frère jumeau de Jean-Louis Debré. Donald Trump se rend en Californie où il doit rencontrer des responsables des services d'urgence. Les incendies dans les 3 États de Washington, de l'Oregon et de Californie ont déjà fait au moins 27 morts et des dizaines de disparus ces derniers jours. Et puis le football, cet échange d'amabilité sur Twitter après le match PSG-OM remporté par Marseille pour la première fois depuis 9 ans, victoire au Parc 1-0. Le bilan, 14 cartons jaunes et même 5 rouges distribués en fin de match pour une bagarre. Neymar accuse Alvaro González d'insultes racistes et le joueur marseillais lui conseille d'apprendre à perdre.
Merci beaucoup Hélène Zélani. 8h33 sur Europe 1, on part sur les routes du Tour de France.
Tout de suite, retrouvez le journal du Tour avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le journal du Tour, c'est avec vous Marguerite Lefèvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
15 étapes avalées déjà et le maillot jaune est toujours solidement accroché sur les épaules de Primoz Roglic. On se demande même si le Tour n'est pas déjà plié.
Oui, c'est vrai que sauf énorme surprise, on voit mal comment Roglic pourrait perdre ce Tour de France. Hier, il a de nouveau été impressionnant dans le col du Grand Colombier avec ses équipiers de la Jumbo-Visma. Ils ont imposé un rythme qui a fait craquer plusieurs favoris de ce Tour. Egan Bernal, vainqueur l'an dernier, a perdu plus de 7 minutes dans cette dernière montée. Il abandonne toutes ses chances de victoire à Paris. Nairo Quintana, lui, perd près de 4 minutes. Impressionnante équipe Jumbo qui laisse amer une partie du peloton à l'image d'Alexis Villarmoz.
C'est vrai que le Jumbo, depuis la reprise vraiment tombe dessus, c'est presque désolant. Voilà, on voit qu'on est vraiment, on peut pas faire grand chose contre eux, donc pour l'instant ils sont plus forts. On doit laisser passer l'orage et on sait que dans le vélo il y a des hauts et des bas et la roue tournera pour tout le monde.
Et en attendant que la roue tourne, le seul aujourd'hui qui semble capable de faire de l'ombre à Roglic, c'est un autre Slovène, Tadej Pogacar, vainqueur de l'étape hier et deuxième aujourd'hui du classement général.
Les coureurs reprendront la bagarre demain car aujourd'hui, aujourd'hui c'est repos pour tout le monde.
Et oui, deuxième étape de repos en Isère qui sera marquée comme la première par une batterie de tests PCR. Tous les coureurs, tout leur staff vont aller se faire tester. On aura les résultats demain matin avant le départ de la 16e étape. Aujourd'hui c'est donc repos, ça va permettre évidemment de récupérer un peu, de penser les plaies. Le Français Thibaut Pinot qui a chuté dès le premier jour et qui souffre toujours du dos depuis, ira quand même faire un petit peu de vélo tout à l'heure.
Je traîne un peu ma misère, donc je croise les doigts pour que ça aille mieux, mais on ne peut pas non plus faire de la récup trop parce que l'étape de mardi est très dure, donc si on se repose trop, on va le payer après. Donc Tour de France, c'est déjà tellement dur quand on est à 100%, donc quand on n'y est pas, c'est vraiment compliqué, quoi.
Et vu le programme, il vaudra mieux être en forme puisqu'après le repos aujourd'hui, place dès demain à 3 étapes de montagne d'affilée.
Merci Marguerite Lefèvre, c'était le journal du Tour.
La passion du vélo à chaque étape, c'était le journal du Tour avec Total Direct Énergie. Un maximum d'économies sur l'électricité et le gaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui.
Il fait chaud, hein ?
Bah oui, il fait chaud, il n'y a pas grand-chose à dire, oui. Puisque je regarde les images satellites, je ne vois absolument rien. Alors je vois du vent de sud hein, sur le Pays Basque, c'est un vent tout à fait logique de compte tenu de la situation actuelle. Sur le bassin méditerranéen, sont également des vents de sud, donc ça veut dire que ce sont des vents de mer en gros, et donc ils rafraîchissent un tout petit peu l'atmosphère, puisqu'à Nice par exemple, nous n'avons que 30 degrés, comme à Narbonne et Marseille, 31 degrés, sont des villes pas trop chaudes, mais dans les Landes, 38, 37 du côté du Poitou-Charentes, la Gironde, le Pays Basque, le Morvan sont autour de 36 à 38, vous voyez. 35 à Lyon et Paris, Paris est déjà 35 degrés, c'est pas mal. Hein. À Nantes, Toulouse, à Charleville-Mézières, 34, 33 à Besançon, comme à Colmar, Lille, Épinal et Caen, 32, et puis un petit 27 degrés à Quimper, qui est déjà une température bien agréable. Voilà pour cette journée. Les températures ce matin sont chaudes. en atteignant 29 degrés à Biarritz à l'heure où nous parlons et 10 degrés à Brest. Voilà, l'amplitude était colossale. Et vous dire que cette semaine sera pratiquement de la même veine. Côté température, quand même, sera un petit peu moins chaud, pas exagéré. Mais côté ciel, ce sera beaucoup moins limpide. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de la semaine. Côté ciel, il y aura toujours des passages nuageux à un moment ou l'autre, mais sans trop d'intempéries, sans trop de pluie, malheureusement.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. 8h36, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et une question que vous vous posez sûrement en tant que parent, d'autant que les nez qui coulent de la rentrée sont arrivés. À quel âge est-ce que je fais tester mes enfants? Notre planète, Fanny Agostini et des oiseaux devenus allergiques au gluten. Enfin bien sûr, Nicolas Canteloup avec Julie pour la revue de presque à 9h moins le quart. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Nous avions expliqué la semaine passée comment faire la différence entre un virus banal et le coronavirus. Hein, à partir de quel âge, Jimmy, c'est la question qu'on se pose ce matin, à partir de quel âge est-il raisonnable de faire un test nasal PCR chez les enfants?
Alors, avant 6 ans, cette situation est exceptionnelle pour plusieurs raisons. C'est la Société française de pédiatrie qui fait ses recommandations. Il y a énormément d'infections virales et il y a une faible transmission du Covid entre les enfants, raison pour laquelle, si jamais votre enfant a le nez qui coule ou qu'il tousse et qu'il n'a pas de température, il n'y a aucune raison de l'éviter, de le sortir de la collectivité, ni même de faire un test PCR. Si jamais vous avez été en contact avec un cas Covid, là évidemment qu'il faut faire un test. Et si jamais le nez coule ou que l'enfant tousse au-delà de 3 jours, eh bien on ne fait pas de test PCR non plus. En revanche, s'il commence à avoir de la fièvre, s'il tousse avec de la fièvre ou si jamais il a de la diarrhée, il faut voir un docteur. Et encore une fois, on ne fera pas de test PCR. On en fera un seulement s'il y a des signes de gravité, si jamais il est en contact avec des enfants ou des personnes à la maison qui ont le Covid ou si jamais il y a des personnes fragiles à la maison dans une ambiance de prévention.
Et après 6 ans, le test est systématique ?
Eh bien non plus. La situation est en revanche un peu plus compliquée. Si votre enfant de plus de 6 ans tousse, avec ou sans fièvre, si jamais il a des signes digestifs comme de la diarrhée, eh bien là, il faut aussi voir un docteur dans les 48 heures. Si ce n'est pas possible, eh bien, il va falloir faire un test PCR. Et puis, si vous pouvez voir un docteur dans les 48 heures, il y a deux situations. La première, le médecin, il a un diagnostic évident. Votre enfant a une angine bactérienne, il a une otite, il a une infection urinaire, eh bien là, on ne fait pas de test PCR. En revanche, si jamais il ne le sait pas trop, qu'il y a une espèce de rhume, une bronchite, c'est pas très clair, eh bien malheureusement, là, il faudra en faire. Je dis malheureusement parce que le test après 6 ans reste difficile. Le prélèvement est douloureux pour les plus petits. Ça se passe souvent avec des pleurs. Donc on espère avoir les tests salivaires rapidement qui vont vraiment changer la donne dans cette lutte contre l'épidémie, et puis aussi pour permettre de vivre un peu normalement. Et puis enfin, si jamais votre enfant était positif au Covid, eh bien au bout de 7 jours, il peut retourner en collectivité. Vous n'avez pas besoin de certificat médical disant qu'il est apte à retourner en collectivité. Il n'y a pas besoin de faire de test contrôle. Et puis c'est vrai que là, nous ne sommes que le 14 septembre. La rentrée n'est là depuis 2 semaines et pourtant, il y a beaucoup d'interrogations. Donc l'année va être longue et encore une fois, on espère vraiment avoir ces tests salivaires qui sont un véritable tournant dans la lutte dans l'épidémie.
Jimmy Mohamed, merci Jimmy. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont écouté cette chronique et qui vont la télécharger en podcast et se l'envoyer les uns les autres entre parents d'élèves. Là, je sais qu'on discute à l'entrée de l'école. Merci Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h pour son rendez-vous avec Mélanie Gomez. 8h41, notre planète, tous les matins avec vous, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et alors ce matin, vous nous donnez une information surprenante. Pour le moins, les oiseaux, eux aussi, seraient allergiques au gluten.
Oui, vous connaissez Mathieu, elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons.
Goldman.
Vous connaissez ?
C'est
tout
Goldman.
À fait. Eh bien, oui. C'est un. Oui, mais moi, je vous le dis ce matin, c'est douter, un refrain là. Assassin. C'est vraiment une habitude dont il faut se passer, donner du pain aux oiseaux, car les volatiles, lorsqu'ils sont gavés de pain, sont en fait des victimes. Ils développent une accoutumance allant jusqu'à l'intolérance. Alors, cela ne se manifeste pas comme nous, humains, par des réactions allergiques similaires, mais par un gonflement de l'estomac, voire des malformations osseuses, que l'on appelle aussi le syndrome de l'aile d'ange. Un terme mignon pour dire que sous l'effet d'un trop-plein de glucides contenus dans le pain, les volatiles, et en particulier les oies et les canards, subissent de graves atteintes, dont la plus dommageable impacte leurs ailes, qui, au fil des ans, partent littéralement en vrille. C'est-à-dire que l'articulation de l'aile se retourne vers l'extérieur, les empêchant de voler et entraînant la mort prématurée, car ils deviennent ainsi des proies faciles.
Aider les oiseaux à l'automne et en hiver, c'est d'abord comprendre leur régime alimentaire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les oiseaux sont essentiellement granivores ou insectivores. Or, leur donner nos restes de table n'est pas la meilleure des idées, nous rappelle Nicolas Macaire, ornithologue à la LPO. Mieux vaut donc privilégier une poignée de graines plutôt que des croûtons de pain. Rappelons aussi que le nourrissage des oiseaux est conseillé uniquement à l'automne et en hiver, période où la nourriture se raréfie et où ils ont besoin de faire des réserves de gras.
Ce dont les oiseaux auraient le plus besoin en ce moment,
c'est de l'eau.
Oui, oui, oui. Bah, nous sommes dans une période de sécheresse. Hein. Mettre de la nourriture à disposition, c'est très bien. Mais leur donner à boire, surtout en ce moment, c'est mieux, voire vital. Alors mettez une petite coupelle sur votre balcon. Ça sera peut-être salutaire pour un oiseau qui a le bec à sec, valable aussi. En hiver, en période de gel où l'eau à l'état solide limite pour eux les points d'approvisionnement.
Merci Fanny Agostini, c'était ça. Hein. Mais on arrête, on chante la chanson et on arrête de donner du pain aux pigeons. Merci Fanny Agostini, 8h43. Vous restez bien sur Europe 1, Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie à suivre, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actu. Mathieu.
Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1, l'info du jour. C'est bien sûr, on en a parlé, la météo. La météo car aujourd'hui, nous allons vivre la journée la plus chaude de la semaine. Et oui, entre la chaleur, entre le Covid, c'est le moment, chers auditeurs, d'acheter en viager. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a de l'héritage qui va tomber. On va gâter cette année les enfants à Noël, c'est une certitude. Et puis, Europe 1 fait l'événement ce matin. Avec le comeback, oui, première interview du retour d'Edouard Philippe. Edouard Philippe sur notre antenne était ce matin pour raconter ses souvenirs. C'était un peu inédit, ses souvenirs du service militaire. Peu de sommeil. Il nous a raconté des chefs qui vous crient dessus, des obstacles toute la journée. En gros, c'était comme un Matignon, mais en bien plus cool. Et puis, chers auditeurs, ça bouge à Europe 1, à la rédaction, puisqu'on nous annonce, et c'est une chance pour Europe 1, l'arrivée d'un grand spécialiste, un grand expert à la rédax, c'est la nomination de Xavier Dupont de Ligonnès, chef du service Faits divers et Société sur Europe 1.
Non, mais arrêtez,
ça, c'est une grande nouvelle.
Mathieu.
Bon recrutement.
Mais arrêtez, Mathieu, allez.
Oui,
bon.
Vous avez raison. Ce n'est pas encore fait, c'est vrai, c'est pas encore fait. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Oh oui, oh, la charrue avant les bœufs. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ».
Oula.
Figurez-vous qu'au XIe siècle, Louis XVI voulait organiser le festival des vieilles charrues en Israël. Il voulait mettre les charrues avant les bœufs.
Oh,
et l'expression a glissé progressivement avec
Stéphane.
Le temps et les siècles.
Non, Stéphane, non, mais franchement, qu'est-ce que vous racontez là? Le festival des vieilles charrues, mais enfin, il n'existait pas au XVIIIe siècle.
Oui, alors, on s'en fout, je dis ce que je veux, qui va vérifier?
Ça, oui. Merci, Stéphane.
Je vous embrasse. Moi, je fais ce que je veux.
Les annonces du Premier ministre pour faire face à la deuxième vague du choriste. Du Covid, pourquoi je dis ça, ont été déçus. On va en parler avec lui. Jean Castex, bonjour.
Bonjour à tous. À Papa Béliard, à Maman Mabrouk, à Papi et Mamie, Papi Cavol, Mamie Julie.
Allez.
Je suis ravi d'être dans vos locales. En tant moi-même qu'élu local.
Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas malade, vous. Hein?
Tout à fait. Je suis ravi de vous annoncer que je suis négatif. J'ai raté mon premier test et j'ai raté mon deuxième test. Et pour certains, soyons dans l'autodérision, je suis en train de rater mon passage à Matignon.
Mais vous n'avez pas dit grand-chose vendredi, en fait.
Tout à fait. Je vois que vous m'avez écouté. Je n'ai quasiment rien dit. Mais si, tout de même, accordez-moi que j'ai annoncé les soldes.
Les soldes.
Ah, tout de même. Allons. Madame Julie, ouvrez les yeux. J'ai fait 50% sur la quatorzaine qui est passée à 7 jours. Donc, je dis à nos concitoyens, Fitez-en.
Et vous avez précisé que pour combattre le Covid, vous privilégiez des réponses locales.
Voilà, sachez, Madame Julie, mon cher Monsieur Cabol, que dorénavant, tout viendra du local. Nous remettons les locaux au cœur des décisions. Plus aucune décision ne viendra de la capitale. Je fais confiance au sens de la responsabilité des Françaises et des Français.
Mais ça veut dire quoi, ce que vous racontez?
Ça veut dire voilà. Démerdez-vous tout seul.
Mais les Français ont été déçus par vos annonces, hein. Il y a de quoi, franchement.
Écoutez, je ne suis pas aveugle. Ils ont été déçus par ma nomination, ils ont été déçus par mes annonces. J'y vois une forme de cohérence dans mon parcours.
Comme vous dites. Allez, merci Jean Castex. On va revenir sur le retour des Gilets jaunes et sur les manifestations de samedi qui se sont déroulées plutôt dans le calme. On parle d'un premier test réussi. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, salut les biloutes. Oui, j'ai passé mon brevet de ministre à l'intérieur. Hein, j'étais super. J'ai mis des flics partout. Des flics. Et j'ai pas un seul œil crevé. Pas une seule main d'arraché. C'est le président de la République, je crois, qui va être content de cette forme de bilan.
Bah justement, le voilà, le président. Bonjour, monsieur Macron.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Béliard, monsieur Cabrol, madame Julie, et bonjour à... bonjour à vous, monsieur... Docteur, pardon, Jimmy Mohamed, dont j'ai lu d'ailleurs la tribune dans le JDD, et vas-y que j'engueule tout le monde, hein, monsieur Mohamed. Et j'engueule les Français, j'engueule le gouvernement, et la Grande-Bretagne, elle fait mieux que nous, et allons-y. Hein, monsieur Jimmy Mohamed siffle la fin de la récré, c'est en gros titre, hein, nous dit l'article. Monsieur Mohamed, regardez-moi dans les yeux, il faut me le dire si c'est la place du ministre de la Santé, Olivier Véran, que vous souhaitez.
Hein ?
Non. Même Julie. Attendez, monsieur Béliard, je ne suis pas innocent, j'ai bien pris Dupont-Moretti et Bachelot.
Ah, oui, ça
je peux vous faire un gouvernement de chroniqueur.
Non, mais laissez-nous, Jimmy Mohamed, hein, vous êtes gentil. Allez, revenons-en aux manifestations des Gilets jaunes, elles se sont bien passées finalement.
Ah, vous avez vu, monsieur le président, même la dame, elle le dit, j'ai été super, j'ai fait mieux que Castaner.
Oui, bon, ça c'est... C'est sûr que ce n'est pas un critère. Il y avait 12 gilets jaunes pour 8000 CRS. Encore heureux que ça soit bien passé, OK ?
Alors, vendredi, vous avez laissé votre Premier ministre Jean Castex s'adresser aux Français. Pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, comme il n'y a absolument rien à dire, Jean Castex me semble être la bonne personne pour l'annoncer. Et encore, il a mis un bon 40 minutes hein, au chrono juste pour dire que la quatorzaine passait à 7 jours. Voilà. Heureusement que je le paye au forfait et pas à l'heure. Hein,
bon, allez, à bientôt, monsieur le président. Vous avez des soucis, hein, vraiment. Hier, c'était le classico PSG-OM qui s'est soldé par une victoire de l'OM sur le PSG. Un match marqué par de nombreux cartons jaunes, cartons rouges aussi, et une bagarre générale. On va recevoir Anne Hidalgo.
Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans l'apaisement. Et je tiens donc à féliciter les Marseillais et à travers eux, la maire de Marseille pour leur victoire hier soir, car je suis fair play. Même si nous n'avions pas Monsieur Mbappé sur le terrain.
Alors on va recevoir aussi celui qui représente le mieux Marseille, Jean-Claude Godin.
Voilà, ce sera moi qui parlerai de Marseille. Voilà. Enfin, tant que l'imitateur officiel de votre radio n'aura pas travaillé la voix de la nouvelle maire de Marseille, Michel Rubirola, qui entre nous, dont tout le monde se fout par ailleurs. Voilà. Il faut avouer ses faiblesses. Je tenais à dire, pas trop souvent quand même, je tenais à dire que j'adore Paris. Alors, ouvrons les yeux, c'est quand même la capitale de notre beau pays et vous avez même le beau temps en ce moment, on se croirait à Marseille. Et merci en tout cas pour vos compliments, pour notre écrasante victoire hier soir sur le score fleuve de 1-0.
Écrasante victoire, oui. Alors, cette rivalité entre Paris et Marseille, elle existe entre les supporters radicaux, mais pas entre vous deux, là, bien entendu.
Mais non, bien sûr que non, peu cher.
Bien sûr que non, enfin, il n'y a pas de rivalité à avoir contre une équipe, de toute façon, que l'on rouste 20 fois d'affilée, qui a juste eu hier soir, un gros coup de cul. Oui, je vous taquine, mon cher Jean-Claude, je vous asticote. Hein.
Oui, mais écoutez, madame Hidalgo, ça c'est sûr que quand on a le PIB des États-Unis d'Amérique pour acheter des joueurs, c'est plus facile. Hein. Vous me rappelez, chère Anne, le score de la finale, vous avez paumé, je crois. Donc, vive le Bayern et allez l'OM à jamais, qui resteront les premiers, parce que nous, madame, nous avons été sacrés champions d'Europe.
Ah ben c'est sûr que quand on achète et le match et les arbitres, c'est beaucoup plus simple de gagner.
Non mais dis donc, monsieur Bédard, madame Julie, je vous prends témoin. Dis donc, elle va se calmer la Bernardino en jupe là, hein, ou je lui fais bouffer son Vélib tout entier.
Attention, ne vous énervez pas mon cher Jean-Claude.
Je fais ce que je veux.
Quand même que vous avez bientôt 134 ans, hein, et que vous habitez dans la ville la plus covidée de France, Marseille.
Ouais,
Et hop, prends ça dans ton dentier.
Oh, mais calmez-vous tous les deux, enfin. Allez.
Non, mais alors... Non, mais les... Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Un vieux débris.
Non, non, c'est trop. Les insultes maintenant, eh bien écoutez, moi je vais lâcher le mot. Je sais que c'est pas l'heure pour le dire, mais je lâche le mot, je lâche l'insulte. Écologiste, va.
Père Jean-Claude, je vous emmerde.
Non, mais toi, t'as un vieux. Lâche-moi.
Bon, allez, on va lui laisser, je crois. Hein. C'est bon.
Du grand n'importe quoi pour terminer.
Ah non,
après
c'est
ce
drôle.
Classique hier soir finalement PSG Marseille. Effectivement. Merci Nicolas Cantelou. À demain Julie.
À demain.
On salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour, c'est Culture Média
de
dans
9h,
quelques
11h.
Instants. Mais ouais, exactement, notre info média, c'est une mini-série sur M6. Sur M6, il s'appelle Un homme ordinaire qui va parler d'une histoire extraordinaire. C'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui avait déjà valu la rupture de stock de Society et ça va démarrer là ce soir sur M6 et on sera avec le réal Pierre Aknin, il va nous révéler sa thèse. Ensuite Stéphane Bern, je ne sais pas faire les imitations, c'est notre monsieur histoire, je suis obligé de dire que c'est Stéphane Bern, sinon personne ne reconnaît la voix, je ne suis pas contre nous. C'est notre monsieur histoire d'Europe 1 qui vient pour un nouveau secret d'histoire consacré à Vauban et aussi il va y avoir une série autour de lui, il sera le personnage central de cette série, il va nous raconter. Et puis La femme parfaite est une connasse, c'est pas moi qui le dis, c'est un livre qui s'est vendu, oui Julie, 2 millions d'exemplaires vendus et les deux sœurs récidives, ça s'appelle La mère parfaite est une connasse. Elles seront avec nous. Elles s'appellent Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h. Vous savez quoi, Philippe ?
Oui.
J'ai une info média pour
Dites.
Vous. J'écoute ce matin Europe 1, 6h20, et voilà ce que j'entends.
Bonjour, c'est Édouard Philippe.
Édouard Philippe qui wow. était dans la matinale d'Europe 1, invité inattendu de Sébastien Krebs pour parler de son engagement, de ses souvenirs de service militaire.
Ça, c'est bien.
Quand on commence à être officier, on est aspirant et ensuite on est sous-lieutenant. Et il vaut mieux pas penser qu'on maîtrise totalement les opérations, donc il vaut mieux écouter avec beaucoup de concentration ce que disent les vieux sous-officiers qui connaissent mieux votre job que vous. Mais en même temps, c'est la première expérience du commandement, et c'est vachement précieux.
Et ce, alors que l'armée française lance une campagne de recrutement auprès de 16 000 jeunes, vous retrouvez l'interview en entier, en intégralité.
Mais c'est pas Édouard Philippe, c'est Cantelou qui limite hyper bien.
C'était le vrai Édouard Philippe. Vous retrouvez l'interview de Sébastien Krebs sur europe1.fr. Je vous laisse avec Philippe Vandel, Culture Média. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.